Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr pour votre rendez-vous hebdomadaire avec les podcasts de la rédaction comme chaque mercredi. Aujourd'hui, podcast numéro 152. Vous voyez nos deux Julien, Julo et Julien C, qui sont revenus de Tokyo dimanche dernier, puisqu'effectivement le TGS fermait ses portes dimanche. Bon, ça ne veut pas dire que tout est fini sur Gameblog en ce qui concerne les news du TGS, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'actualités. Avant toute chose, effectivement aussi, je voulais et on voulait tous vous dire un grand merci d'avoir été au rendez-vous la semaine dernière pour l'ouverture de la saison 4 des podcasts. Vous étiez nombreux et ça nous a fait chaud au cœur de vous retrouver. Maintenant, c'est donc de nouveau chaque semaine, chaque mercredi. Et aujourd'hui, pour ce podcast 152, nous allons parler du TGS.
Quelle surprise !
Voilà, c'est incroyable quand même. Après un petit bilan d'actualité de cet été dernier pour le premier podcast, on ne pouvait pas ne pas revenir sur ce salon qui s'est quand même bien passé, puisque le CSA a déjà communiqué les chiffres de fréquentation qui sont très en hausse. Ils ont enfin passé la barre des 200 000 visiteurs cette année, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. C'était un salon qui était, comme vous le savez, aussi consumer. Il y a eu deux jours pro et deux jours public. Je crois aussi d'ailleurs que c'était la première fois qu'ils faisaient quatre jours. D'habitude, c'est trois.
Ah non, c'est toujours quatre.
Toujours quatre.
Enfin, je crois en tout cas. Hein. Si mes souvenirs sont bons, on a fait deux jours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont un peu plus fermé les jours pro.
Ouais.
Parce qu'il y avait un peu tout le monde qui pouvait y aller et c'était bien. Parce qu'effectivement, on a eu le temps de jouer à pas mal de trucs les deux premiers jours et les deux suivants, c'est très.
C'était la
très
fin
chaud.
Du monde.
Ouais.
On va pouvoir revenir là-dessus, effectivement, parce que du jeu, il y en avait. Il y a aussi eu des annonces. Bon, alors pas de choses un peu hardware. Comme par exemple une PSP2 ou des choses comme ça, quelques bruits de couloir par-ci par-là, mais rien d'officiel en tous les cas. Mais du jeu, il y en a eu, il y a eu des annonces, on s'attendait peut-être même pas, en tous les cas nous de Paris avec Traz, on s'attendait pas à ce qu'il y ait finalement autant de nouveautés annoncées.
Bah, j'ai l'impression que c'était surtout une vraie réaction par rapport aux propos de Inafune de l'année dernière, qui déclarait quand même que le jeu vidéo japonais était mort.
Puis il en a remis une couche là.
Ah oui, il en a remis une couche, il continue. Maintenant, je crois qu'il est tombé vraiment du côté du marketing. Hein. C'est de la surenchère totale. On reviendra dessus tout à l'heure. Mais j'ai vraiment l'impression que les développeurs japonais, cette année, s'étaient gardé des cartouches sous le coude pour pas les balancer à l'E3, salon américain, ou à la Gamescom, salon européen. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que vraiment, pour en avoir discuté avec de la presse internationale, donc à la fois japonaise, française ou américaine, il y a un renivellement des cartes, une redistribution des cartes, un E3 qui a augmenté, une Gamescom qui a beaucoup baissé, et
en termes d'annonce, c'est vrai que c'était moins riche,
qui est remonté, et en gros, voilà, ça s'est rééquilibré cette année, et c'est vrai que du coup, on a eu droit à pas mal d'annonces, des jeux qui faisaient leur premier pas au Tokyo Game Show, ce qui n'était clairement pas le cas l'année dernière.
Effectivement, donc c'est un salon qui, comme d'habitude, s'est ouvert sur des conférences de presse. Alors on a eu droit à une conf Capcom, une conf Electronic Arts, il y a eu aussi une keynote de Microsoft, avec pas mal d'annonces, on l'a vu surtout pour Kinect, de manière assez surprenante. On va y revenir dans quelques instants. Et puis aussi des présentations du côté de Sony.
Et de Namco.
Et de Namco, oui. Et puis on a appris au passage du côté de Square Enix qu'il y aurait aussi une conférence en janvier prochain pour tout ce qui était plus ou moins absent, on va le voir, de ce TGS, notamment le fameux Final Fantasy Versus 13 qui a été dévoilé rapidement. Voilà, très 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 furtivement en trailer.
C'est bien, 26 secondes.
On va en parler. Mais néanmoins, c'était 26 secondes rassurantes, a priori. Donc on va en reparler.
Ce sera donc la conférence Fabula
Nova Crystalis. Voilà, c'est ça, avec Agito 13 aussi. Mais pour l'heure, on va revenir d'abord sur un petit peu le sentiment général que vous avez retiré sur place du salon, l'ambiance, etc. Et comme tu le disais, sur les discussions que vous avez pu échanger avec le reste de notre fabuleux corps de métier sur place. Alors, quel est votre sentiment ? Parce que nous, de Paris, on a trouvé ça assez en ébullition quand même, assez énergique.
Je sais pas, Julo, si tu...
Oui, bah écoute, moi, effectivement, j'ai été plutôt content de tout ce qu'on a pu voir là-bas. C'est vrai que par rapport à l'année dernière, et par rapport même à la Gamescom, hein, d'ailleurs, tu le soulignais, il y a eu des annonces. On a fait des conférences, donc Capcom, Electronic Arts, etc., dans lesquelles des nouveaux titres ont été annoncés. On a remarqué, et notamment du côté de chez Capcom, vraiment une volonté un peu de s'internationaliser encore et toujours. On a remarqué également que, effectivement, le jeu vidéo japonais, l'industrie du jeu vidéo japonais est peut-être un peu en crise, mais que là...
Ils font de la résistance.
Ils font de la résistance et qu'ils ont vraiment envie de dépasser ce cap-là. Et moi, c'est l'impression que j'ai eue, c'est que ça commence à être le cas. Encore une fois, surtout du côté de Capcom, en réalité.
Inafune qui a redit récemment que tant que Capcom était là, le jeu vidéo japonais n'était pas mort. Hein.
Comme disait Julien, c'est presque un argument marketing maintenant, c'est Capcom is leading the way. Voilà. Donc Capcom montre la voie à tout le monde pour sauver un peu le jeu vidéo japonais. Alors ça se fait beaucoup avec des studios internationaux, mais ça se fait aussi avec des jeux japonais, on le verra avec Asura's Wars notamment. Donc voilà, moi j'ai eu un bon sentiment sur ce TGS. Il y a des jeux qui m'ont un peu tapé dans l'œil. Mm-hmm. Il y a eu des annonces, voilà, c'est pas énorme, hein, faut dire ce qu'il y a, c'est pas un E3, ça sera jamais un E3 je crois. Mais dans tous les cas, il y avait de l'énergie quoi.
C'est un sentiment que tu partages, Julien ?
Alors oui, les valeurs de production, cher Aran, ont très clairement augmenté hein, cette année. En gros, l'année dernière, quand on se promenait dans les travées du Tokyo Game Show, on trouvait qu'il y avait beaucoup de jeux qui étaient techniquement à la ramasse. Mm. Cette année, franchement, c'est plus le cas. On a même pris des petites claques avec des titres comme Ni no Kuni sur PS3, ouais. Qui vont
revenir sur tous ces titres
magnifiques, ou sur DMC, alors même s'il est fait en Occident, hein, qui vraiment claque. En revanche, pour avoir parlé avec des journalistes japonais, le sentiment est quand même beaucoup moins souriant que ça peut le sentiment qu'on peut en extraire.
Alors, qu'est-ce qui les embête justement?
Ce qui les embête, c'est que l'industrie du jeu vidéo japonais n'attire plus les jeunes créateurs. En gros, lorsqu'on est jeune, plein de dynamisme et qu'on a envie de se lancer dans le marché du travail, on ne va plus dans les sociétés de jeux vidéo, on va plutôt faire du web design.
Au Japon donc, hein.
Je parle du Japon, bien sûr. On va dans des sociétés de web design, on va essayer de faire d'autres choses. On part peut-être même à l'international où on est mieux payé, mieux traité et peut-être mieux valorisé. On avait quand même une action qui a été faite par les créateurs au sein de chez Capcom à la gare du Makuhari Messe, qui était quand même Save the Creators, où le message était quand même clair hein, sur on a la pression, c'est pas facile, etc. Il y a d'autres choses aussi. C'est vrai que Capcom domine les débats par sa volonté qu'elle a eue depuis bien longtemps maintenant, quasiment depuis le début en fait des consoles nouvelle génération. Enfin, j'adore la nouvelle génération.
Oui, les
consoles HD, on va dire,
d'avoir
exactement de s'internationaliser, de ne pas s'en empêcher de le faire, de ne pas en avoir honte, et aujourd'hui d'en tirer les fruits. Ils ont quand même, on a eu à la conférence Capcom le rachat de Blue Castle, donc c'est les Canadiens de Vancouver qui ont fait le dernier Dead Rising, qui désormais sont un studio à part entière de chez Capcom.
Travaille avec Ninja Theory pour le prochain DMC.
Exactement. Mais
studio britannique, donc, en l'occurrence.
Pour avoir parlé avec d'autres personnes de l'industrie très haut placées, mais on peut pas les citer. En gros, ce qui est intéressant de voir, c'est quand même que, par exemple, la part de marché des jeux occidentaux au Japon a été multipliée par 2 cette année. Mm-hmm. Et c'est vrai que quand on se promène à Akihabara, par exemple, ou dans des hauts lieux des magasins de jeux vidéo japonais, quelque chose qui n'existait tout simplement pas il y a 2-3 ans maximum, et ben là des méga affiches d'Halo Reach, des méga affiches de Call of Duty, des trailers dans les téléviseurs de... enfin, moi j'ai vu quasiment plus de pubs pour des jeux occidentaux que de jeux japonais.
Et mais la question c'est est-ce que le public japonais lui suit?
X2 déjà,
donc en vente, peut-être x2 en termes de vente,
voilà, peut-être x2 l'année prochaine.
Ils ont les moyens de grandir en tous les cas, parce qu'effectivement, exactement, on le sait, le jeu occidental là-bas c'est pas encore ça, c'est réservé à une frange très particulière des joueurs japonais qui s'ouvrent vraiment sur l'Occident, un petit peu comme nous on peut s'ouvrir sur des jeux très japonais, mais à l'inverse. Et pour reprendre les paroles par exemple de Yoshida, Shuhei Yoshida, qui est le patron des studios Monde de Sony Worldwide, il disait effectivement, en général, les gros succès des jeux occidentaux type les Call of Duty que tu as cité, les Halo Reach, etc., c'est très très confidentiel encore au Japon, même si tu le dis, ça a doublé.
Bah, la première Xbox, entre la première et la deuxième Xbox au Japon, il y a quand même un fossé incroyable, c'est-à-dire que la deuxième Xbox, la 360, s'est vendue déjà beaucoup plus que la première en 3 fois moins de temps. Et juste pour conclure, on a parlé aussi avec des développeurs japonais qui nous ont fait l'amitié de passer un peu de temps avec nous. Et l'un des prochains caps qu'ils vont devoir franchir au sein des développements japonais, c'est le management. C'est comment réussir à mieux manager les équipes, des équipes qui ont explosé en nombre. Avant, ils avaient l'habitude de travailler à 20, 30, 50 max. Là, maintenant, ils se retrouvent avec des équipes de 200, 300 personnes. Ils ne savent pas faire ou pas bien faire. Donc, ils sont en train vraiment d'apprendre. C'est le cas déjà depuis quelques années. Ça commence à porter ses fruits maintenant. Et en gros, eux, pour eux, ça leur paraît, mais encore un peu surréaliste, et ils rêveraient de pouvoir le faire, à l'image, et c'est les propos de Kojima, hein, de un Assassin's Creed qui est annoncé tous les ans avec des valeurs de production quand même énormes. Après, on n'aime pas, etc., mais enfin, c'est des gros jeux à chaque fois. Eux, les Japonais, on va le voir avec un Last Guardian, on va le voir avec d'autres titres, c'est des jeux à chaque fois qui mettent 4, 3, 4, 5, 6 ans à sortir. Ça, c'est inconcevable pour la majorité des gros blockbusters occidentaux. Call of Duty, c'est tous les 2 ans. Pour chacun des développeurs.
Oui, il y a des méthodes, effectivement, voilà, des équipes, des alternances.
Ils sont en train de l'apprendre, et ça, je pense que sur la prochaine génération de consoles,
ça va changer,
c'est quelque chose qui va être intégré au mieux, et donc on aura des TGS encore plus forts et des jeux japonais.
Pas avant. Si. Je pense pas qu'ils vont intégrer ça un peu avant, quand même.
Ça nous laisse 2-3 ans. Et je pense que c'est un temps pour bien absorber. Et puis on a vu aussi refleurir, moi j'ai trouvé, des petits jeux originaux qu'on aime bien à la japonaise. On reparlera d'El Shaddai avec son style visuel qui nous a tapé dans l'œil. Alors que c'est pas le cas de tout le monde. Pour nous, c'est peut-être pas forcément un jeu culte, mais en tout cas, bon, il a l'air très sympa. Et puis, des jeux complètement barrés qui reviennent. Tokyo Jungle Paradise, avec ce petit chien là qui doit se battre et bouffer d'autres petits clébards. Des jeux avec des soubrettes à gogo. Le succès incroyable de Love
Plus. Ça marche toujours, la soubrette.
Hein. On en reparlera tout à l'heure. Mais enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé que c'était un Tokyo Game Show dynamique, vivant et à l'image du Japon, assez étonnant.
On est d'accord, on est d'accord. Et tu parlais il y a un instant de The Last Guardian, comment ne pas revenir effectivement là-dessus? On l'attendait évidemment comme vous, hein, on le sait beaucoup. Alors,
c'est la douche froide.
C'est la douche froide dans le sens où effectivement on avait prévu de pouvoir parler de nouveau avec Monsieur Ueda, son créateur, avec une interview qui finalement a été annulée.
Ah bon, on lui enverra des fax.
Bah voilà. Et puis ils ont dévoilé finalement pas grand-chose en dehors d'une date de sortie un peu lointaine.
Qui fait plaisir en plus.
Ouais, c'est-à-dire qu'effectivement c'est prévu maintenant pour Noël 2011 sur PlayStation 3 en exclusivité.
Au Japon.
Alors au Japon, oui, on aura peut-être droit à une sortie internationale.
Et
peut-être.
Alors j'apporte une petite nuance sur c'est prévu. C'est-à-dire qu'effectivement ça conclut le trailer de Last Guardian. Néanmoins après on a eu notre présentation d'une heure qui était gorgée de vie.
Alors raconte-nous justement ce que vous avez vu, ce qui s'est passé. Parce qu'en dehors du
juste sur la date, la phrase d'Ueda traduite, hein, ça a été « We target Noël 2011 ». C'est-à-dire que c'est pas sûr. Hein,
c'est l'objectif.
C'est l'objectif, voilà. Il se passe plein de trucs autour de ce jeu, des choses qu'on ressent et des choses qu'on sait. Les choses qu'on sait, c'est que le producteur initial de Last Guardian, puisque Fumito Ueda n'en est que le directeur,
ouais,
a été viré du projet, là récemment, remplacé par un nouveau producteur, dont à demi-mot, on nous a indiqué qu'en gros, c'était le mec qui était censé faire sortir le jeu, et qui n'est pas trop là pour se marrer.
C'est souvent le cas avec ce genre de projet qui s'éternise, effectivement. C'est souvent la responsabilité du producteur de pousser au cul les équipes de développement pour se mettre enfin finalement à lâcher un petit peu la recherche, parce qu'il nous l'a indiqué à de multiples reprises. Ueda a passé beaucoup de temps en R&D pour développer les animations de la créature, etc.
Mais attends,
etc.
La R&D, elle vient d'être finie, c'est ce qu'il nous a annoncé.
C'est l'une des informations principales, c'est que le jeu, d'ailleurs, dès qu'on lui posait des questions un peu précises sur le jeu, notamment sur celle du scénario, c'est je sais pas, on verra, parce qu'effectivement, du début du développement jusqu'à aujourd'hui, c'était R&D, c'est-à-dire arriver à faire bien fonctionner les modèles des personnages dans les décors, machin, etc. Vraiment tout ce qu'il y a de purement technique, et qu'à partir de maintenant, le développement du jeu, en termes de game design, commence réellement, en fait.
Mais c'est un peu le syndrome GT5, hein. Casino Royale, c'est ce qu'il disait. S'il y avait personne
pour l'arrêter,
justement dans ses recherches, etc., le jeu sortirait jamais, quoi. Donc il est obligé d'avoir des gens qui lui disent bah écoute, là ça suffit, je pense que t'as été assez loin quand même dans le concept que tu voulais mettre en place, donc maintenant faut peut-être arrêter, sinon ça sortira jamais, quoi.
Sauf qu'il y a une grosse différence entre Fumito Ueda, donc Last Guardian, et Yamauchi Kazunori de Gran Turismo 5, c'est l'attitude. C'est-à-dire qu'on a eu deux présentations, présentation de Last Guardian, mais qui a été à mon avis préparée 7 minutes avant que la presse internationale arrive, hein, parce que il y avait rien, ils avaient rien à nous dire,
juste le trailer, quoi.
Ils se faisaient chier,
hein,
ouvertement, hein, franchement, hein, c'est-à-dire que même au niveau des photos, regardez les photographes, c'est compliqué, tu comprends.
Donner l'impression de pas avoir envie d'être là.
Ah non, mais vraiment
c'est pas son
pas.
Truc, quoi.
Alors que Kazunori, lui, c'était super préparé, super calé. Quand on pose une question, il vous regarde dans les yeux, il vous fait un petit sourire, même s'il vous raconte pas grand chose.
Oui, parce qu'il a fait quand même des réponses assez cinglantes.
Voilà, bon, bah au moins vous vous sentez un peu concerné. Enfin bon.
Il bosse beaucoup avec toi aussi dans Kazunori.
C'est sûr.
Sur plein de trucs.
Mais alors, moi, ce qui m'a vraiment choqué pendant la présentation de Last Guardian, c'est surtout l'attitude et les propos de Ueda contre Sony.
Ah bon ?
Ah, mais vraiment, pour moi, il y a eu trois pics claires, évidentes et fortes quand on est un développeur interne à Sony.
Ouais.
Où trois fois, il a quand même dit Sony est incapable de garder mes secrets.
Ouais.
En parlant des versions
marqué,
HD de Ico et de Shadow.
Mais oui, parce que souvenez-vous,
Shadow
effectivement, il y avait eu un premier trailer qui avait
le leak
trouvé sur le net, alors que c'était pas du tout prévu.
Il a ressouligné, alors là, maintenant, c'était il y a quasiment une semaine, donc je l'ai plus vraiment super frais en tête, mais il y a eu deux autres pics comme ça à Sony, nominativement. Hein, c'est Sony, nananana, formule négative, tac. Avec des phrases laconiques. Quand on sait qu'en tout et pour tout, en une heure, il a dû avoir sept phrases, quand il y en a sept, trois sur sept sur lesquelles c'est ouvertement. Il a recommencé sur Twitter. Sur Twitter, il a dit Sony, nanana.
Et résultat, qu'est-ce qu'il fait ? Il joue à Halo Reach pour se détendre chez la concurrence.
Tiens, comme par hasard. Enfin, moi, je trouve, j'ai eu le sentiment, alors ce n'est qu'un sentiment, mais qu'il y a une mauvaise ambiance et qu'il y a un truc entre l'esprit créatif de Ueda et la réalité d'un projet de cette envergure qui fait qu'à un moment, ça se tend un peu et là, ça a du mal. Et pour nous, journalistes qui recevons les choses, ce qu'on a eu, c'est un petit trailer quand même. on n'a rien vu, rien appris. Alors oui, les animations ont été améliorées sur la créature, mais très honnêtement, on ne demandait pas d'avoir une démo, on ne demandait pas de découvrir plein de trucs sur
le
scénario.
Ah si, quand même, parce qu'on nous avait annoncé une présentation. Et moi, je m'attendais à une présentation du jeu en bonne
et due forme. C'est ce qu'on avait prévu, oui.
Parce que le trailer qu'on a vu, donc Behind Closed Doors, il était aussi sur le chauffleur. Donc finalement, on n'a rien eu de plus que ces quelques... Voilà,
ah oui, autre pic, ça y est, je me souviens. Ah oui, c'est quand même... Il a commencé la conférence en disant « Sony ne nous a accordé que 30 secondes lors de sa conférence », parce qu'en fait, la présentation a eu lieu juste derrière la conférence. Mm-hmm. Ueda, je vous jure, j'étais sur place, c'est quand je t'ai envoyé le texto pour te dire « ça y est, voilà, date de sortie, etc. » Ueda, il a tiré la tronche à la conférence.
Il s'attendait à plus
il est venu,
de reconnaissance, etc.
Il est venu, il a fait « voici mon trailer ». Et il s'est barré. Point. Mais en tirant vraiment la tronche, ouvertement. Bon, je sais pas.
Peut-être que Sony aussi l'a peut-être un petit peu puni, entre guillemets, en sachant qu'il avait rien à montrer. Donc ils se sont dit, il a rien à montrer, on va lui accorder quelques secondes. Et puis voilà, quoi.
Ce qui est certain, c'est que Sony, on a peut-être un peu marre de ces projets qui s'éternisent quand même. Parce qu'entre GT5 qui a mis 1000 ans à ne serait-ce que sortir une date de sortie.
Mais lui, quand il sort, il se vend.
C'est certain.
Moi, c'est ce qu'on m'a dit.
C'est sûr que ICO et Shadow of the Colossus sont pas les sellers que peuvent être les Gran Turismo. Voilà.
De sources sûres, on va dire qu'on m'a quand même souligné qu'il serait bon qu'ils sortent et que ça commençait à faire un peu long quand on connaît le seuil de rentabilité qu'aura ce jeu-là. C'est-à-dire qu'il y a des itérations, apparemment. La manière dont ils travaillent, c'est ils font quasiment le jeu, puis il y a Ueda qui joue et qui apparemment fait ça me plaît ou ça me plaît pas, et si ça lui plaît pas, il faut recommencer. Et ça a coûté 3 millions de dollars en attendant. Voilà. Ouais. Et ça fait beaucoup de fois 3 millions de dollars, apparemment.
Bon, dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un certain souci de détail et il y a une ambiance et une atmosphère qu'on ne trouve que chez les Ueda. Donc, c'est peut-être inquiétant, effectivement, cette atmosphère un petit peu tendue et délicate. Mais en tous les cas, on jugera sur pièce.
On attend toujours avec ferveur ce jeu et on espère être méga surpris, etc.
Dans un an et demi, au mieux.
La seule chose qu'on peut dire de concrète, ça concerne les remakes HD qui ont été montrés, qui sortiront donc au printemps, qui sont donc sur un seul et unique Blu-ray, qui n'auront, si on en croit Fumito Ueda, strictement aucune addition supplémentaire par rapport aux versions auxquelles vous avez pu jouer, hormis
si
que c'est de HD.
Voilà, HD, 3D et les succès.
3D, pas sûr.
Si, ils l'ont confirmé apparemment.
Ils l'ont confirmé après.
C'est pour The Last Guardian qu'il envisage éventuellement, mais qu'il n'est pas sûr. Pareil pour le Move.
D'accord.
Il étudie la possibilité, mais voilà quoi.
En revanche, donc vous attendez pas à des textures totalement refaites, fofolles et machin, des sons complètement refaits et tout, hein, parce qu'on a eu. Ah si, on a eu une démo du premier combat.
Ils vous ont montré les deux ? Ico
non,
et
non,
Shadow ?
Non, que Shadow. Que Shadow. Le premier combat, etc. Mmh. Et je peux vous dire un truc, c'est que ça rame encore.
Ah bon ?
Moins, mais ça
parce
rame encore.
Ils ont promis que ça ne ramera plus.
Je sais. Hein. Et franchement, il y a un moment, on est tourné autour de la bestiole et ça a ramé. Donc franchement, je vous jure cette présentation, mais... la seule chose qu'on a attendue, qu'on a appris un peu croustillante, on va dire, en anecdote, c'est qu'initialement, pour The Last Guardian, ça devait être une fille.
Oui.
Et que, parce qu'il avait dessiné une fille initialement, puis il s'est rendu compte que s'il la faisait grimper sur la créature, on verrait sa culotte.
Oui, c'est ça. Pas que ce serait. Oui. Alors évidemment, on ne peut pas mettre une fille en pantalon. Hein.
C'était super, merci.
Difficile de mettre une fille en pantalon.
On aurait dû laisser, justement. Mais bon, c'est pas grave.
Enfin bref, effectivement, donc The Last Guardian, on peut parler un petit peu d'une déception parce qu'on s'attendait vraiment à voir beaucoup plus.
C'est comme la grosse déception parce que c'est le jeu que tout le monde attendait.
Bon, en tous les cas,
on voulait voir absolument en jouable, c'est etc.
Et pour info, toujours pareil, dans l'histoire Sony Ueda, il se passe quelque chose. Ueda, toutes les interviews ont été annulées, on vous l'a dit, sauf que Ueda, il n'était pas au courant qu'il y avait des interviews.
D'accord. Donc en fait, elles n'ont pas été annulées, elles n'ont pas été programmées.
C'est ça.
Très bien. Voilà donc effectivement pour le gros morceau qu'on attendait chez Sony. De son côté, Gran Turismo 5, puisqu'on en parlait il y a quelques secondes, était évidemment de retour avec des démos par contre vachement plus impressionnantes et de la révélation de certaines features qu'on ne connaissait pas jusqu'ici. C'est quand même dingue pour un jeu qui sort le 3 novembre. Notamment My Home, comment ça fonctionne, etc. Et puis,
c'est Facebook.
Voilà, vous avez vu. Parlez-nous un petit peu de ce que vous avez vu là.
Il y a eu notamment ce My Home avec les options communautaires, etc. Il y a eu le mode Special Event dans lequel on va pouvoir faire des rallyes avec Sébastien Loeb, dans lequel on va pouvoir faire tout un tas d'événements particuliers qui vont être sortis en fait du mode principal GT. On a vu surtout là pour le coup avec des vraies démos le jeu qui tournait de nuit avec les effets météo, etc. Et franchement ça tue la gueule, c'est super super bien foutu. Kazunori Yamauchi nous a avoué parce que la question lui a été posée pendant la présentation que le jeu ne serait pas tout le temps en 60 images par seconde, donc ça fait la gueule, mais bon il a
c'est
dit voilà moi
américain.
C'est vrai qu'il a fait la tronche à ce moment-là,
je vous jure, il a été froid glacial après mais tellement Exactement.
Dans tous les cas, voilà, quand il y aura vraiment tous ces effets météo, machin, etc.
Plus bah, les voitures à l'écran.
Les voitures. Il est possible que le jeu, dans certains passages, soit à 40 et non 60 images secondes. Mais franchement.
Par contre, il nous a dit donc qu'il y aurait tous les dégâts pour toutes les voitures, qu'elles soient premium ou pas.
Premium ou pas. Alors en fait, la différence, ça, vous l'avez découvert avec l'interview, les différences entre les voitures premium et non premium, c'est simplement les voitures qui ont été créées expressément pour GT5 et celles qui datent d'avant. Celles qui datent d'avant sont non premium, les nouvelles sont premium. Elles se déforment toutes, simplement les premiums se déforment de manière plus réaliste et plus
approfondie. Il y a plus de détails en fait.
D'accord. Voilà. Okay. Donc, mais sinon, voilà, sinon c'était effectivement une présentation super calée comme d'habitude. Le jeu, il s'annonce, mais tellement blindé de contenu, c'est hallucinant.
C'est fou.
Ça va être sans fond.
Et plus de 1000 voitures, hein, c'est ça.
Ouais, plus de 1000 bagnoles, des modes de jeu à gogo, l'éditeur de circuit que tu vas pouvoir du coup foutre sur ta page My Home pour les partager avec les autres, etc. Enfin, tu vas vraiment pouvoir faire tout un tas de trucs et ça va être énormissime, joli, etc. Quoi. Un gros jeu.
Il y a un truc que je trouve super intéressant avec My Home, donc bien sûr disponible sur PS3, Facebook Like, etc. Échanger ses courses, ses replays, ses photos, ses machins, mais aussi sur le net,
sur gt5.com.
En gros, vous êtes au bureau ou ailleurs, en vacances et machin, vous n'avez pas votre console avec vous. Néanmoins, en remote, vous pouvez continuer à suivre les courses de vos potes, les vôtres, si vous avez laissé votre
participer,
console tourner.
Participer, etc.
Puisqu'avec le mode BeSpec, où finalement, c'est une sorte de RPG automobile, où vous lancez vos poulains sur des carrières super longues et machin, blablabla. Bah là, comme ça, sur le net, vous allez pouvoir voir, il est au 40e tour, ouais, bah fait un changement de pneu, je regarde mes courses, etc. Je trouve ça génial et effectivement le contenu du jeu, même pour moi qui suis pas un hallucinant,
c'est très
ouf de jeu bagnole, bah je me dis quand même là, ça fait presque flipper tellement il y a du contenu. C'est quand même deux Blu-ray remplis apparemment jusqu'à l'os. Hein.
Mais enfin en même temps un petit peu heureusement quand même hein, depuis le temps qu'il est dessus.
Et il bosse déjà sur GT6. Ouais, il a des idées.
Il sortira dans moins longtemps d'après ce qu'il dit.
Oui, puisqu'il a expliqué effectivement que la structure et le moteur que représentait GT5 était une nouvelle base. C'est ce qui fait que ça a pris autant de temps à développer et que GT6 serait redéveloppé sur cette même base.
Voilà. En même temps, il vaut mieux laisser un petit peu de temps entre les deux parce que le temps de finir le 5, là, je pense qu'il y a du boulot.
En fait, il a parlé
de GT5. Tu vas le finir pour le test, toi ?
Oui, bien sûr. Trois fois, je vais le finir.
Okay. Il a parlé de GT5 en fait comme un OS, c'est-à-dire un système d'exploitation qui allait servir de base ensuite pour sortir d'autres itérations, etc.
Qui seraient les applications de ce système.
Voilà, qui seraient les applications de ce système.
Est-ce que je peux avoir un mini coup de gueule quand même concernant GT5 et les GT en général, c'est ça tue la gueule, franchement c'est super beau machin etc,
mais il y a toujours une différence entre
les vidéos qu'on nous montre, ce n'est pas le rendu du jeu et franchement moi ça me saoule un peu, c'est à dire que à chaque fois on nous le montre vraiment clairement comme étant les images du jeu et c'est des modèles super high res et une fois que tu te retrouves dans le jeu ça reste très beau mais c'est pas ça. Et bah, je trouve ça quand même un petit peu...
Limite.
Ouais, sauf s'ils mettent cinématique ou ils mettent gameplay, mais l'espèce d'entre-deux un peu bizarre où tu fais...
Non, mais c'est toujours le même truc depuis le tout premier avec ces fameux replays qui tuent la gueule, mais qui n'utilisent pas forcément le même moteur que celui de la course.
C'est un peu dommage, je trouve.
Mais bon, enfin, pour les amoureux de bagnole, en tous les cas, ça se présente bien.
On a vu le mode rallye aussi, Trace, tu vas être content, parce que ça fonctionne vraiment comme en rallye, c'est-à-dire avec des départs de chaque voiture décalés de quelques secondes, des sections, etc. Enfin, c'est du vrai rallye, quoi.
Des pistes qui sont changées, chargées, pas aléatoirement, mais qui sont conçues spécifiquement.
Ouais, dans les modes special event, d'ailleurs, ça marche comme
ça. Et le copilote qui est derrière, qui te fait vas-y, tourne à droite, à gauche. Un vrai jeu de rallye.
Assez pour GT5. Évidemment, on va poursuivre un petit peu sur ce que Sony a, le ton que Sony a donné. Ils ont évidemment repris tout ce qui était 3D, affichage 3D et PS Move en force, puisque c'était la première présentation publique du PS Move pour les Japonais. Apparemment, il y a eu une bonne réception. Vous avez eu beaucoup de Japonais qui jouaient au PS Move et qui appréciaient.
Il y avait du monde sur le stand de Sony, sur le stand de Microsoft d'ailleurs aussi. Hein, on avait fait une petite Gameblock TV là-dessus, mais il y avait du monde. Ça intéresse les gens. Après, effectivement, dans les discussions qu'on a pu avoir avec la presse japonaise, etc., ils sont pas non plus super excités et surtout super sûrs que ça puisse vraiment fonctionner commercialement.
Le Move ou la 3D ?
Le Move. En revanche, on a pu voir les packs qui allaient être proposés au Japon et là, je vous confirme, on se fait vraiment enfler en Europe parce que là-bas, les packs, ils sont proposés avec des jeux plus PlayStation Move à un prix super abordable, etc., ce qui n'est pas le cas chez nous, je le répète. Donc, il y a une volonté quand même un peu plus forte qu'ici de le faire rentrer dans les maisons, quoi.
Ce qui est curieux quand même, parce que finalement tout le monde est un petit peu dans l'attente par rapport à ça. Il n'y a pas de raison que les Japonais aient besoin d'être plus convaincus que nous finalement.
écoute, on rapporte plus d'argent aux gens visiblement, hein. En tout cas on nous saigne un peu plus. Toujours pareil sur sur les trucs un peu insider, les conversations qu'on a pu avoir, de la vie générale de, au Japon, apparemment ils pensent que Kinect va mieux marcher que le PlayStation Move.
Au Japon ?
Là ils parlent pas forcément du Japon, ils parlent globalement. En revanche, ils pensent que le ratio de jeux vendus par PlayStation Move va exploser celui de Kinect. En gros, que ça les gens vont acheter Kinect parce que ça a l'air vraiment chambé, et c'est vrai qu'on va en parler tout à l'heure sur le stand Microsoft, il y avait vraiment du monde qui joue à Kinect. Mais en revanche, tout le monde a l'air assez conscient sur la qualité des jeux généraux, et qu'en gros sur PlayStation Move ça marche et sur Kinect un peu moins bien. Et que du coup les jeux PlayStation Move se vendront mieux, mais peut-être moins que PlayStation Move au global. Et moi j'ai trouvé qu'il y avait des petits jeux japonais PlayStation Move qui étaient vachement sympas. J'en ai retenu un qui s'appelle Sketch Beat.
Comment
Sketch Beat.
Sketch Beat.
Beat Sketch.
Ou Beat Sketch, ouais. Donc Beat comme de la musique. En gros, tu dessines. En fait, il y a quelqu'un, à l'écran apparaît des grands traits de couleurs, etc., qui font de la musique. Donc si le trait monte, ça fait... ça part dans les aigus, si ça descend, ça part dans les graves et tout. Donc toi, tu dois reproduire les mouvements, et au fur et à mesure, en fait, ça dézoome et tu dessines un grand truc au fur et à mesure.
J'ai trouvé
ça plutôt rigolo, sympa, bien foutu, ça utilisait bien le PlayStation Move. C'est un petit jeu sans grande prétention. Mais voilà, typiquement, les jeux rapides à faire sur lesquels les Japonais ont une belle expertise.
Avec une idée originale.
Ouais. Avec une petite idée originale, et c'est bien sympa, parce que sinon, tout le reste, c'était du classique.
Ça fait pas penser à Child of Eden un peu?
Non, Child of Eden, c'est vraiment c'est raise, c'est
beaucoup plus musical.
On va revenir dessus. On va revenir dessus parce que vous avez pu.
Il sort que fin octobre le PlayStation Move au Japon.
Ouais, c'est vrai. Donc c'est le 21, je crois. Ouais. Si je dis pas de.
Pour une fois, on a les choses avant eux.
C'est sorti en France le 15 septembre.
Bah oui, mais j'aurais préféré l'avoir en même temps qu'eux et moins cher.
C'est ça.
Mais bon.
Et voilà.
Après, pour le reste de la conférence Sony, enfin la conférence, dans tous les cas de leurs annonces, il y a eu quelques annonces éditeurs tiers, avec notamment Yakuza of the End. Qui est donc un nouvel épisode un peu barré par rapport à la série. Julo, t'as pu
jouer 5 heures,
prendre un peu plus là-dessus.
Non, alors on n'y a pas joué. Hein. Le jeu n'était pas jouable. Cela dit, à l'intérieur du théâtre, dans le stand Sega, on a pu avoir une assez longue vidéo qui décrivait vraiment tous les différents aspects du jeu. Alors, comme vous le savez, c'est le Yakuza dans lequel on va devoir se battre non seulement contre d'autres Yakuza, mais aussi des zombies. Il va y avoir une espèce de sentiment de survie comme ça à l'intérieur de Kamurocho, donc ce quartier dans lequel se déroulent tous les Yakuza. Et donc il va y avoir des attaques de zombies, en fait il y a une sorte de virus qui est là, et ils vont ils vont devoir foutre des gigantesques murs. Donc il y a l'armée japonaise qui est là, etc. On va pouvoir conduire des tanks, on va pouvoir utiliser des
alors qu'un chat attaque la rédaction par les toits,
on va pouvoir utiliser tout un tas de flingues, et ça c'est la principale nouveauté en termes de gameplay.
À la Cobra, là, le mec a le blond avec son
il y a un mec qui a un flingue à la place du bras, une grosse Gatling. On va pouvoir utiliser des snipers, donc des fusils snipers, des petits flingues, etc. T'as des vraies séquences qui ressemblent un peu, je pourrais, à du Gears of War et compagnie, dans lesquelles tu vas devoir shooter du zombie à gogo.
Alors ça a l'air effectivement très action, mais il y aura quand même aussi tout ce qui est l'habituel
dans
les Yakuza.
D'un Yakuza à Yakuza, c'est-à-dire vraiment une pléthore de mini-jeux avec du golf, tout un tas de conneries,
des
trucs de drague, tout ce qui est habituel dans un Yakuza, mais vraiment dans une ambiance complètement différente, à savoir celle
des zombies. C'est super beau, hein.
Et c'est méga beau. C'est vraiment ça déchire visuellement. Les modèles des personnages sont incroyables
à chaque fois, j'ai l'impression.
Bah disons qu'il y a un petit côté old school toujours quand tu te lances dans une partie de Yakuza, où à un moment tu vas au bout de 2 secondes être devant un mur invisible, ou quand tu vas parler avec quelqu'un, les modèles sont super classe, il y a des scènes doublées, etc. Mais la plupart du temps quand tu discutes, c'est des petites zones de texte qui apparaissent qui font bip. Donc c'est un peu, il y a toujours ce petit décalage.
Un peu à deux niveaux en fait.
Ouais, il y a un peu deux niveaux, c'est old school et en même temps super beau graphiquement. Voilà, cela dit, quand on est fan de Yakuza, ce sera un vrai bon Yakuza, un peu plus original que d'habitude. C'est pas Yakuza 5, c'est Yakuza of the End, donc on peut dire que c'est un nouveau spin-off après Kenzan qui s'est passé à l'époque des samouraïs, mais ça s'annonce vraiment super cool quoi, en fait. Voilà, le jeu, elle a vraiment cool à jouer, vraiment sympa.
Alors ne lâche pas le micro
pour une fois, original.
Ne lâche pas le micro. Un autre Yakuza qui a été présenté aussi, c'est celui sur PSP, auquel tu as pu jouer aussi.
Alors là, oui, plus rapidement, donc on a eu une petite démo effectivement, la jouable cette fois. Alors c'est pareil, c'est un vrai Yakuza, simplement évidemment techniquement il y a des petites différences. Les décors sont un peu comme dans Resident Evil, c'est à dire que c'est des décors fixes mais super jolis. Il y a un grain particulier dans l'image, et sinon ça fonctionne comme dans un Yakuza, si ce n'est que la baston a l'air encore plus présente que d'habitude. C'est une caméra très rapprochée des personnages. On peut frapper évidemment avec les poings, les pieds, se mettre en garde, faire des esquives, ramasser. C'est un Yakuza. Tout
là,
ce qui est
vraiment
décors.
En 3D.
Et là, ça passe vraiment. Non, mais c'est vraiment en 3D, sauf que les décors bougent pas. Sinon, dans les scènes les caméras sont fixes en fait.
Sauf dans les séquences de baston.
Et sauf dans les séquences de baston.
Ça passe par écran comme ça. Tu passes d'un écran à l'autre en fait.
Tout à fait. Tout à fait, c'est ça. Et après, tu auras une histoire. Alors ça commence avec ce nouveau personnage qui est enfermé dans les bureaux de Yakuza. Il arrive à s'enfuir en en cassant la gueule du mec qui est là pour le garder. Mm-hmm. Et puis ensuite, on l'a vu se faire poursuivre par tout un tas de yakuza, etc. Puis la démo s'arrêtait plus ou moins là, après 2-3 bastons, dans lesquels on pouvait ramasser bouteilles, cajots, etc., les exploser sur la gueule de l'adversaire. C'était assez péchu et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une patte intéressante, d'autant que les cinématiques, à la manière de Peace Walker, sont en dessin, vaguement ouais, animé, mais avec voilà, façon BD, façon Digital Comics, en fait. Avec, voilà, c'est ça. Mais ça a vraiment la classe, moi, je trouve. Donc, j'étais plus ou moins séduit. Voilà.
D'accord. Du côté de Sony, donc, on a eu effectivement d'autres annonces qui étaient peut-être un peu plus japonaises. Je pense notamment à Dynasty Warriors 6 qui a été annoncé en exclusivité sur PS3. On savait qu'il était déjà en développement. On va pas revenir dessus. 30 millions moins perso. Les Dynasty Warriors, j'en ai marre depuis le deuxième. Mais bon, c'est un avis personnel. Effectivement, je sais qu'il y a des fans et heureusement pour eux. Ils ont parlé aussi de Disgaea 4 qui était donc qui est un tactical RPG.
C'était en marge du salon.
Voilà, pour ceux qui aiment ce genre de jeu à la Final Fantasy Tactics. En fait, avec de l'humour, etc. Ils ont promis un épisode encore plus débile que les précédents, avec vraiment beaucoup d'humour, etc. Un épisode très important, visiblement, pour ces concepteurs. Donc, on en aura des nouvelles très bientôt. Et puis, donc, on va pas revenir dessus non plus. Donc, la sortie des remakes de Ico et Shadow of the Colossus. Il y avait pas grand chose d'autre finalement de neuf.
Il y a eu des nouveaux coloris de PSP.
Ouais, et voilà, puis ils ont annoncé effectivement aussi
une PSP spéciale Monster Hunter.
Voilà, du côté de Capcom, auquel on va passer en fait tout de suite, puisque eux ont fait en revanche une conférence.
Ouais, juste un truc, Julien. C'est quand même la 3D.
Ouais.
Parce que là, elle était partout. Hein.
Ah bah oui, oui.
Vraiment, tous les jeux qui étaient montrés sur le stand Sony, etc., c'était 3D, 3D, on nous distribue des lunettes 3D.
Mais la balle était, elle coûte pas cher, elle coûte 50 euros.
Bon, pas France, tant que ça, mais vraiment, ils veulent marquer le coup. On est la seule console qui font la 3D. Regardez. Mm. Bon, bah nous, on a regardé et ça nous fait toujours mal à la tête et ça nous a pas super convaincus, mais bon. Ouais. Mais bon.
Et si voilà. Un jour tu viendras, tu verras.
Oui, quand il y aura plus de lunettes.
Peut-être.
Ouais. C'est pour bientôt, a priori. Hein. Déjà, il y a déjà des écrans auto-stéréoscopiques avec des
grosses lunettes. Dès qu'ils auront vendu assez de télé qui fonctionnent avec lunettes.
Ouais, exactement.
Ils passeront aux télé sans lunettes.
Et oui, revendu des lunettes quand on les aura pétées, parce qu'il faudra les racheter. Enfin, bref. En tous les cas, donc, on parlait de Capcom il y a un instant avec Monster Hunter Portable 3rd, qui aura droit donc, à sa PSP limitée, et sur lequel on va revenir dans quelques instants. Côté Capcom, en fait, la conférence, moi, j'ai trouvé, en tous les cas, vu de Paris, qu'elle était vraiment pleine de plein de trucs. Ils ont effectivement annoncé, on l'a déjà mentionné, DMC, Devil May Cry, qui est donc un reboot de la série qui est développé par Ninja Theory en Angleterre, les créateurs notamment de Enslaved qui va sortir très bientôt et auparavant de Heavenly Sword. Toi Julien, tu l'as trouvé convaincant ce premier truc?
Bah moi j'ai trouvé que c'était pareil que le reboot de Batman. C'est-à-dire que on a un Dante qui est plus sérieux, mais pas. Enfin, je me comprends. Sérieux dans le sens où c'est plus un poseur qui va se la raconter, qui blablate et machin. C'est un ado vénère. Mmh. Alors oui, on a bien vu, entendu que sur les forums,
les avis
de Gameblog et du monde entier, les avis sont effectivement assez mitigés sur la nouvelle gueule du héros.
Très émo comme ça avec ça.
Ah bah qui est quand même juste la même que. Le patron de Ninja Theory. Alors vraiment, vous mettez les deux face à face. Nous, on avait l'image, le trailer au-dessus, puis on avait
le gars en dessous,
Anton Nyandes de Ninja Theory, juste en dessous. Bah, je vous jure, c'est la même coupe de cheveux qui est déjà improbable, qui ressemble à celle de Sirkis de comment ça s'appelle?
Indochine.
Voilà. En gros, on joue avec le mec d'Indochine et avec un peu le look aussi de Twilight. C'est un mix de tout ça.
Voilà, tout ce qui est un peu à la mode côté.
Moi, je vois bien le truc de Twilight, moi aussi.
Ah, mais très clairement, Capcom l'a dit, on est allé chercher Ninja Theory parce qu'ils savent capter ce qui fait le kiff, l'envie, l'énergie de la jeunesse d'aujourd'hui. Voilà. Donc,
à mon avis, il y en a dans les jeunes qui sont en train de bander. Ouais, c'est pas mon kiff, mais bon.
Mais c'est ce qu'ils veulent faire, ouvertement. Et moi, je trouve qu'ils le réussissent admirablement. C'est-à-dire qu'on n'est plus. Enfin, moi, j'aime beaucoup la série des Devil May Cry. Alors, le premier,
bien sûr,
le dernier, et bon, le 4. Un peu. Bon, le 2, c'est une catastrophe. Mais c'est bien aussi de changer. On arrivait quand même à Devil May Cry 5. Mm. Et à un moment, un reboot, une nouvelle manière d'aborder la série, etc. Et bien. Et je pense qu'en plus, ils le font avec et modestie, parce que c'est quand même un très gros travail pour eux, Ninja Theory. C'est une licence quand même mondialement connue.
Grosse responsabilité.
Ouais. Grosse responsabilité. En plus, alors après, ça peut être du marketing à con, mais enfin, je pense que c'est probablement vrai, puisqu'il n'a pas cité les autres. Il n'a parlé que de Devil May Cry 1. Mm. C'est un jeu, visiblement, qui
Pour lui, c'est vraiment l'élément le plus important.
Ouais. Voilà pour le créateur de Ninja Theory. Donc, je pense qu'ils vont vraiment y aller en mettant plein de nouvelles idées. C'est un studio qui monte hein, quand même, qui fait des jeux qui.
On sait qu'en tous les cas, techniquement, ils savent faire des belles choses.
Puis le trailer, il claque.
Voilà, ils ont l'habitude aussi de travailler avec des gens du cinéma, notamment le fameux.
Andy Serkis. Non, le mec qui a fait Gollum.
C'est ça. Je sais plus si c'est Serkis parce que comme on vient de parler.
Serkis. Ils font pas que bosser avec lui, il a des parts dans la boîte.
D'accord, ok.
Ça lui appartient un peu. Et donc c'est pour ça que c'est lui qui fait les motion capture à chaque fois
de toutes les cinématiques et des voix aussi. Il fait des voix aussi. Donc en tous les cas, un studio qui s'est développé. Bon, après, Even Histoire n'était pas forcément un jeu très convaincant au niveau ludique. Il y avait des défauts, etc. Enslaved se présente apparemment mieux en tous les cas. On verra pour DMC, effectivement, c'est en tous les cas une grosse demande de la part de Capcom, mais Inafune fait beaucoup ça en ce moment. Et puis ça n'a pas été le premier à externaliser aussi des licences fortes.
En tout cas, le trailer est super classe.
Ouais. C'est vrai.
J'ai été bluffé par le trailer.
Évidemment, ça reste de l'action. Hein, c'est quand même la marque de fabrique de la série, donc il n'y a pas de raison
on
de changer.
On a pu découvrir qu'il y avait une nouvelle arme aussi, hein, une espèce d'épée un peu à la.
Une épée ouais, fouet
voilà, qui permet de ramener des choses.
Épée grappin.
Mais sinon, tous les codes sont là. Hein. La redingote, elle est juste un peu retaillée, plus proche du corps. Il saute sur les murs dans tous les sens, il a toujours son épée, ses flingues, enfin c'est des villes mécrailles, mais même l'univers hein, quand on regarde, quand ça dézoome et qu'on voit la ville, c'est vraiment le style, hein, c'est les briques rouges et puis au fond des architectures un peu plus élancées, enfin
tendance gothique,
on est vraiment dans des villes mécrailles mais qui auraient pris un peu de saut. Parce que visiblement, les séances de torture avec le mec qui lui parle Wario, what is your name, machin, etc. Et puis un peu de Twilight, un peu de tout ça, qui font bah, aujourd'hui aussi ce qui attire les jeunes. Donc
et
après,
pour les fans de Dante,
à suivre.
Pour les fans de Dante, ça fait un retour sur les origines du personnage et savoir un petit peu ce qui s'est passé finalement avant le premier, Devil May Cry.
Moi, je suis pas sûr que ce soit connecté vraiment à la série. Justement.
Ouais, je pense à un reboot total.
Ouais, je pense que, ouais. Vraiment. Moi, je pense que c'est vraiment c'est ça. On repart à zéro, on fait table rase de tout et bim. Voilà Dante.
D'accord. Bah, mais en tous les cas, on verra. C'est prévu sur Xbox 360 et PS3 pour l'année prochaine. Donc on aura l'occasion effectivement d'en reparler. Autre jeu présenté à la conférence Capcom qui a bien marqué techniquement, qui est développé sur l'Unreal Engine, c'est Asura's Wrath.
Engine 3.
Hein ? Unreal Engine 3, oui, là, effectivement, dernière version, qui est développé par CyberConnect 2. Alors CyberConnect 2, c'est un studio qui a fait notamment Point Hack.
Mais qui a fait pas mal de jeux pour Namco Bandai dans les adaptations Naruto, de licences, voilà, etc. C'est des gens talentueux et ils ont un vrai style. D'ailleurs, c'est le seul jeu finalement japonais de
ouais, 100%,
du côté de chez Capcom. Et franchement, ça nous a fait une bonne impression aussi. Alors, c'était juste un trailer, encore une fois, mais il y a un univers bien marqué, une ambiance bien marquée. Il y a ce personnage qui a la classe, je trouve, a un design vraiment typiquement japonais, une vraie bonne pêche dans le jeu et dans le trailer qu'on a vu. Donc Asura, c'est Dieu en quête de puissance dans la religion hindoue, je crois. Et c'est exactement ça. Au début, on voit ce mec transpercé de
complètement enragé,
avec à la rage mais totale, ouais. Et qui est complètement transpercé par des lances et il affronte des armées entières. Donc ça se dirige peut-être vers une sorte de beat'em all massif. Voilà, mais en beaucoup plus classe. Il y a notamment des petites allures de ce qu'ils avaient fait dans Street Fighter dans l'intro du jeu. Avec voilà, au moment où ils donnent des coups de poing, des images qui s'arrêtent sur la gueule des mecs et les textures qui changent un peu comme ça, qui se dessinent un petit peu.
Super classe.
Franchement, assez classe. Alors on peut pas en dire beaucoup plus sur le jeu, mais en tout cas, il a vraiment une âme et on est impatient d'en avoir plus.
D'avoir la démesure à la Bayonetta, ouais, ce qui n'est pas pour me déplaire personnellement. Quand
ouais, t'as notamment ce
qui arrive au-dessus de la planète,
voilà,
de la Terre,
ouais,
qui va l'écrabouiller
avec son doigt. Effectivement, si vous n'avez pas vu, effectivement, tous ceux dont on parle là, les trailers sont évidemment visionnables sur Gameblog.fr. Donc si vous les avez pas vus, jetez-vous dessus. Ils sont souvent en HD, donc il y a moyen de se rendre compte un petit peu de ce qu'on a vu là-bas.
C'est un jeu sur la religion, je pense.
Ouais, sur l'introspection.
Exact.
C'est ça.
Mais on voit tous ces.
La solitude.
tous ces ennemis qu'on voit justement dans le trailer, ils font beaucoup penser aux statues qu'on peut voir dans les temples japonais, etc. Donc vraiment, il y a une vraie patte particulière et je trouve ça assez cool, quoi.
Effectivement.
Je pense que Bouddha va nous exterminer.
C'est pour
Al-Qaïda.
Oui,
c'est au choix.
Autre jeu annoncé encore par Capcom, cette fois-ci un peu moins surprenant, c'est l'épilogue.
Qui sent bon l'argent.
Et qui sent bon l'argent. C'est l'épilogue de Dead Rising 2, sous-titré Case West. Hein, donc après, ils nous ont sorti le Case Zero, qui était en fait le prologue à Dead Rising 2.
Tout ça, c'est de l'exclu 360.
Voilà. Et donc Case West va sortir aussi, donc exclu 360. C'est un épilogue après qui reprend le héros de Dead Rising 2 avec un
Frank
featuring
West.
Du premier, Frank West.
Qui reviendra. Donc en gros, ce sera batte de baseball et appareil photo. ça va être sympa, histoire de nous sortir après le pack premium sur PS3.
Avec tout dedans,
bien sûr, histoire que les gens puissent le racheter, parce que ce serait dommage.
Moi, j'étais vachement plus séduit par le blouson que portait Inafune.
Oui. Qui était celui du personnage du héros de Dead Rising.
Apparemment, ils en ont mis 8 en vente sur le blog US. Je pense que c'est déjà parti à leur. C'est un bon vrai blouson.
En tout cas, ils se sont bien occidentalisés, effectivement, avec tous les DLC. Ils ont tout compris.
Ah, bah, c'est développé par donc Blue Castle, qui devient donc maintenant Capcom Studio Vancouver.
Voilà, et qui est très content de devenir Capcom Studio Vancouver.
Tu m'étonnes.
il a été très souriant sur la scène, apparemment.
Ah, je te jure, on l'a vu. Nous, on était vraiment en dessous, là. On l'a vu arriver. Moi, je te jure, il y avait la main qui tremblait.
Ah ouais, c'est genre. Ah ouais, c'est ça, c'est ce qu'ils sont.
Mais même Anthony Andes, je trouve que vraiment tous, ils avaient l'air un peu.
Intimidés,
émus, etc. Ils sont quand même. C'est vrai que c'est un peu étrange, mais Capcom, c'est quand même un mythe du jeu vidéo japonais. Et, donc,
et le jeu vidéo japonais national, en lui-même est un mythe au niveau de l'histoire du jeu vidéo.
Grave.
C'est vrai que
et là, on leur demande de prendre leur plus grosse série de machin et de. Allez-y, les gars, on vous fait confiance. Moi, je trouve c'est bien.
Dans tous les cas, c'est courageux, c'est sûr, de la part de Capcom, même si on se leurre pas. Hein, c'est un intérêt commercial derrière. Ils savent très bien que.
Dans 6 mois, ils vont fermer le truc, et puis voilà. Ils vont comprendre ce que c'est que l'Occident.
Ouais, c'est ça, avec les grèves, avec tout ça. Ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là?
C'est pas l'Occident, c'est la France, les gars.
Oui, pardon. Enfin, bon, c'est vrai que j'attends de voir un studio japonais qui viendra confier une grosse licence à un studio français.
Mm-hmm. Bah, tu vas attendre longtemps.
Peut-être pas, qui sait, on ne sait jamais. Voilà, en tous les cas, du côté de Capcom, ça bougeait fort. On a vu aussi le nouveau Megaman un peu brièvement.
Megaman Universe.
Mega Monsieur.
En téléchargement.
Ce qu'on pouvait rajouter par rapport aux impressions qu'on a fait là-bas sur place, parce qu'en fait, c'est un peu le problème quand même de partir au Japon quand on ne parle pas japonais. En gros, les personnes qui vous présentent le jeu ne savent absolument pas vous dire ce qu'il y a dedans parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer avec vous. Et du coup, oui, une chose qu'on n'a pas précisé, c'était horrible parce que je pensais que c'était ça, mais je n'osais pas vraiment le dire, c'est qu'effectivement, on peut paramétrer tous ces niveaux, y intégrer des éléments, c'est un peu à la Little Big Planet Light. Mmh. Voilà, et on peut donc mégamaniser son monde, y intégrer des personnages.
Megafied!
Exactement, y intégrer différents personnages. Et donc, par exemple, on a du Ryu en petit perso Megaman qui arrive comme ça dans l'univers de Megaman.
Il balance des boules de feu?
Alors, ça, on ne l'a pas vu. On n'a pas pu le voir. Mais il y a par exemple le Megaman, le tout premier de la jaquette, la toute première version qui est là, avec sa petite tête un peu chelou.
Il y a la version rejetée aussi, la version moche, il l'appelle.
Exactement, mais qui est moche.
Ah oui, elle est moche.
Je confirme. Donc voilà, après, ça reste un Megaman classique. Mais on peut y jouer à 4, etc. Enfin, il y a plein de petites additions.
Dans tous les cas, effectivement, Capcom néglige pas du tout le téléchargement. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit et qu'ils ont l'air d'avoir compris plus vite, peut-être, que d'autres développeurs
ils
japonais.
Ils ont tout compris, Capcom.
Voilà, y a un marché et une tranche et un type de jeu à faire pour les plateformes de téléchargement et on va en profiter. Et
ils ont pas le train en marche, hein, c'est sûr. Hein.
On passe à Electronic Arts.
Ah, bah, il y a quand même Monster Hunter.
Ah oui, j'ai oublié Monster Hunter.
C'est quand même le jeu du salon.
Oh, c'est un petit jeu.
En fait, pour les japonais, en tous les cas,
du point de vue japonais, effectivement, c'est le gros jeu du salon. Ils avaient un stand magnifique qui était aux couleurs du village, donc du nouveau village de cet épisode.
Ils vont vendre 100 milliards encore.
Yokumo, je crois. Oui. Donc une ambiance beaucoup plus japonaise, beaucoup plus asiatique en tout cas, avec des samouraïs, des grandes lames, etc. Donc on a pu voir le jeu, il était en démo sur des tonnes de bornes. Il y avait une queue gigantesque pour y jouer, notamment sur les jours publics évidemment. Et alors, première chose, déjà, le jeu est super joli, vraiment super joli. Quand on le voit sur les grands écrans des bandes de démo, c'est certes un peu pixelisé, etc. Mais pourquoi grandir un écran PSP? Quand on y joue sur PSP, c'est vraiment super beau. C'est limite comme sur Wii, j'ai envie de dire. D'ailleurs, ils reprennent beaucoup d'éléments de la Wii. Il y a ils reprennent donc des niveaux et des monstres de la version Wii et c'est franchement aussi joli. C'était déjà très joli sur Wii. Il y a quelques nouveautés. Alors évidemment, il y aura des nouvelles armes, des nouveaux monstres, etc. La possibilité de jouer avec deux félines. Puis voilà,
c'est les petits personnages qui t'accompagnent en chasse. En fait,
ils t'accompagnent pendant la chasse et puis ils vont balancer des grenades, frapper ceux que tu vises, etc. Donc ils vont t'aider en fait quand tu joues seul. Après, ils sont pas là quand tu joues à plusieurs. Donc voilà, il y a quelques éléments subtils qui vont changer fait comme ça à droite à gauche.
Mais rien de révolutionnaire.
Surtout, rien de révolutionnaire, ça ressemble beaucoup en fait à, dans le déroulement, dans le gameplay, etc. à l'épisode d'avant, donc qui est sorti chez nous sous le nom Freedom Unite.
Oui.
Il n'y a pas si longtemps. Mais ça va faire un carton, c'est évident. Ça va être énormissime. C'est, l'une des c'est la meilleure nouvelle de ces derniers mois pour la PSP, qui, dont la durée de vie va être prolongée facilement d'un an.
Mais déjà que la PSP, là, au Japon, elle tient quand même bien la route.
Mais la PSP est très
en
forme, et on le voit à l'image des jeux qui étaient présentés sur le salon. Chez Square Enix, tu avais également évidemment Third Birthday encore qui était là. Tu avais le nouveau Dissidia. Tu as plein de jeux PSP partout. Ouais. C'est une console qui a la pêche au Japon. Alors, c'est peut-être pas le cas partout dans le monde. Mais en tout cas, ça va
quand même.
Ça va prolonger un petit peu la sortie de la PSP.
Elle a même droit à sa PSP spéciale.
Ouais. Et voilà. Monster Hunter, ils rendent l'appareil à Metal Gear Solid Peace Walker. Il y aura Snake qui sera à l'intérieur, comme dans Peace Walker, il y avait certains créatures de Monster Hunter.
Avec quelques accessoires dans le carton pour te planquer, etc.
Crossover bien vendeur.
Et donc il y a une nouvelle PSP, oui, effectivement.
Et elle a quelque chose de spécial, cette nouvelle PSP.
Elle a deux trucs spéciaux, en fait. Il y a d'abord le stick analogique qui a été changé. Il est creusé un petit peu pour mieux épouser la forme du pouce.
Et là, en 3D.
Et vous savez que les Japonais, ils jouent bizarrement à Monster Hunter. Il y a une technique particulière, c'est-à-dire ils mettent le pouce sur le stick et ils mettent le doigt sur la croix de direction, donc ils l'index, la tiennent un peu bizarrement voilà, façon je suis un crabe voilà. Ou un poulpe, tu dis moi, parce que franchement j'ai essayé de jouer comme ça, c'est un peu chaud. Mais ils y arrivent et ils le font tous, hein. Tu regardes sur les bandes de démo, ils étaient tous comme ça. Donc le stick, il y a la batterie également qui est une batterie longue durée, et puis évidemment le look de la PSP qui change. Alors elle est noire mat, c'est super joli, noir et or, et en plus de ça
des trucs derrière sur les deux poignées,
il y a des petits logos Monster Hunter devant et derrière. Et ce qui est rigolo, c'est que sur les petits trucs des haut-parleurs, en fait c'est des pattes de chat.
Voilà, des pattes de rajouter féline. Les petits trucs autour,
tout à fait. Donc voilà, elle est super mignonne, la PSP, et puis voilà, ça devrait faire un carton évidemment. Il va y avoir un pack dès la sortie du jeu en limité, etc.
Il faut que tu me la ramènes.
D'accord. C'est sûrement effectivement une console qu'on n'aura pas chez nous. Enfin, a priori, ce genre de série limitée, on les voit jamais en Occident.
C'est pas gagné. Hein.
Donc, bon, bah, un port pour les amateurs. On va revenir du côté de Julien.
Et un dernier truc chez Capcom. Ouais. Alors, moi, je suis pas du tout spécialiste, machin, mais il y avait Marvel vs Capcom 2 qui apparemment est.
3.
Voilà, j'y connais rien. Voilà, je mais je tiens à se venir au moins, vite fait, peut-être que vous y connaissez mieux. Parce qu'apparemment, c'est une tuerie absolue que tout le monde faisait.
Crossover de
ils ont montré deux nouveaux personnages du casting de ce Marvel vs Capcom 3 qui m'échappent là maintenant tout de suite. J'ai un gros trou de mémoire, mais c'est sur gameblog.fr avec les vidéos qui vont avec.
Enfin, ça a l'air de tuer. Hein,
pour l'avoir vu tourner, moi j'avais été déçu au début de voir les images fixes, les screenshots du jeu, parce que graphiquement c'était vraiment, je trouvais, en dessous d'un Street Fighter, d'un Super Street Fighter 4, etc.
Mais il y a un effet particulier vraiment très ancré.
Mais en fait, ça bouge tellement. Hein, pour ceux qui connaissent la série, c'est n'importe quoi. Hein, ça part dans tous les sens, on va en hauteur, il y a des trucs qui explosent partout, on change de personnage tout le temps, etc. Et visuellement, en fait, ça m'a beaucoup rassuré moi quand je l'ai vu tourner. Donc voilà, je trouvais ça très, très joli, très bien fait.
Ça
et très,
tue la gueule. C'est Yun et Yang, ce que tu pensais.
Non, ça c'est pour la version édition. Effectivement, c'est ça, arcade de Super Street Fighter 4 qui a été dévoilé aussi avec ces deux nouveaux personnages, Yun et Yang, qui viennent de Street Fighter 3.
Ça tue la gueule.
Pour le moment, c'est de l'arcade. On espère évidemment, peut-être éventuellement, ces deux personnages sous forme de téléchargement, peut-être à ajouter à Super Street Fighter plus tard, mais en tous les cas, rien n'a été annoncé là-dessus pour l'instant.
Ouais, ça tue la gueule, j'ai envie de dire.
Electronic Arts a fait aussi sa conférence de presse, un peu moins
riche.
C'était
même la première.
C'était celle qui a ouvert le salon.
Chronologiquement parlant, c'était la toute première.
Voilà, un peu moins riche que celle de Capcom, mais avec néanmoins quand même quelques petits trucs. Ils ont annoncé notamment un jeu 3DS qui s'appelle My Garden.
My Garden, ouais.
C'est rigolo.
Tu veux nous en parler, Julien ?
Moi, je vais kiffer. Hein. Vous savez que si
toi qui aimes les fleurs,
journaliste de jeux vidéo, je serais fleuriste. Non, mais c'est vrai en plus.
Non, ça a l'air mignon en plus. Ça a l'air bien foutu.
C'est un jardin, Alors, il y a moult essences de fleurs, d'arbres,
des centaines, etc.
Et puis, vous les plantez comme ça. Et puis, naît devant vous un petit jardinet. Vous devez arroser, couper, et puis blabla et blabla. C'est en 3D. C'est sur 3DS et il y a sûrement plein de trucs super. Et le style visuel, moi, me rappelle énormément Pikmin.
Évidemment.
Sorti de là, honnêtement, on n'a pas grand chose à
vous
dire.
Côté gameplay, ça fait penser à Viva Pinata. Voilà, c'est vraiment le même genre de gameplay.
Donc, entretien d'un jardin.
Entretien d'un jardin pour récupérer des nouveaux items, des nouvelles graines, pour avoir de nouvelles plantes, qui amènent de nouvelles espèces, etc. Enfin, c'est très Viva Pinata.
Il y a une espèce de petit personnage japonais là, qui vous aide d'avoir une composition florale.
Oui, tout à fait.
Ça s'appelle comment ? Un tanuki ?
Non, un tanuki.
Tanuki,
c'est une espèce de raton laveur japonais.
Voilà, exactement.
Donc voilà, faut savoir que
en 3D, ouais, ça peut être rigolo.
C'est très mignon en tout cas.
C'est vrai que l'art floral au Japon, c'est quelque chose de très.
L'Ikebana. Mais c'est pas la même chose, c'est l'arrangement floral, ça. Ouais.
D'accord.
Et dans tous les cas, ça sortira au lancement de la Nintendo 3DS.
Donc en 2011, ils n'ont évidemment pas précisé la date, puisqu'on ne la connaît pas pour l'instant. Donc, probablement mars 2011, en tous les cas, on mise en gros nous sur
fin 2010 et début. Bah,
on va le savoir dans peu de temps, hein, puisque la conférence elle est prévue pour la fin de septembre.
Ah oui, oui, c'est vrai.
Dans moins de 10 jours,
le 29,
on saura. On saura, et évidemment, on vous le dira.
Pas.
Ça sera peut-être en 2010. Hein.
D'accord.
Au Japon, ouais, peut-être.
Un autre jeu,
même quasi sûr.
Quelques exemplaires.
Un autre jeu qui a été annoncé et montré par Electronic Arts et qui fait penser à d'autres choses.
Mortel, tellement ça tue la gueule, franchement.
C'est Create.
Oh ouais, là, c'est la baffe. C'est la baffe du salon.
C'est ouais, Little Big Create.
Franchement, voilà, ce jeu-là ne dit absolument rien, mais tu vas nous en parler.
De la merde. Voilà,
c'est pour ça que ça m'a pas marqué.
Non, mais alors sérieusement, donc effectivement.
Ah, mais c'est sérieux, super sérieux. On a vu ça, on a fait waouh. Bah, c'est Little Big Planet en moins ambitieux. Ouais. C'est un style visuel un peu dans les Sims, donc c'est très occidental, un peu tout sec, un peu tout pas très beau. Les Sims, tout c'est caca. Joli, hein, mais là, je veux dire, c'est en gros, il y a un décor qu'on peut paramétrer, changer plein de trucs, mettre des petites voitures, faire des réactions en chaîne, partager ses décors et ses univers et tout avec ses mégapodes qu'on a sur Internet, et que c'est trop bien.
Donc, ils ont un très bon titre,
et
mais pas un très bon jeu.
Et que c'est ultra communautaire et 2.0, et c'est voilà, et on passe à la suite.
Oui, ça va sortir sur toutes les plateformes, donc c'est vrai que ça sent quand même un peu la machine à blé. C'est prévu sur Wii, sur PS3, sur 360,
sur PC, d'original,
sur Mac.
Ça sent le sapin, ça.
En novembre cette année, donc. Si on n'entend parler que maintenant, c'est pas bon signe non plus.
Little Big Planet 2, ça a l'air tellement mieux, tellement plus riche, tellement plus fun.
C'est clairement. Ouais,
non, mais là, c'est super pour maman qui découvre le jeu vidéo sur PC. Quoi.
Bah, il en faut aussi, hein, des
mamans. Oui, très bien.
Ah, on est d'accord, non? Oui. Donc, qu'est-ce qu'ils ont montré d'autres à peine dévoilé aussi le nouvel Alice de American McGee, donc qui fait suite à un jeu qui est sorti il y a pas mal d'années maintenant sur PC à l'époque, était une sorte de TPS avec cette
Alice au pays des horreurs.
Donc c'est Alice Madness Returns, c'est prévu pour l'année prochaine aussi. On n'a pas vu grand chose non plus à part une cinématique en image de synthèse,
hein.
Voilà, qui donne effectivement l'ambiance du jeu. Toujours un peu noir, un peu type Burtonesque, etc.
Alors moi j'avais une question, parce que vraiment là pareil, je n'y connais rien. American McGee, c'est son vrai nom? Genre le mec il s'appelle American?
Franchement, je préfère ne pas répondre, je n'en sais rien.
Okay.
Je crois bien, si.
Sur les forums, ils l'ont présenté comme ça.
Le mec, c'est American McGee.
Si, il s'appelle comme ça.
Donc le mec, son prénom, c'est American.
Oui, je sais, c'est bizarre.
American, lève-toi, et toi, France. Remarque, et non, je suis
France. Oui, c'est bien sûr. Non,
c'est
bien son nom.
C'était le quart d'heure culture sur les prénoms pays. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre? Oui, vous avez vu aussi, effectivement, Dead Space Extraction version HD. Donc il sera filé avec la
version PS3.
Version PS3 Collector de Dead Space 2 et qui sera jouable au Move.
Oui.
Merde.
Bah, c'est un rail shooter, donc ça va vite.
C'est exactement le même jeu, mais refait. Quoi.
Alors là, c'est vraiment. Oui, alors un peu refait, c'est-à-dire que oui, c'est HDisé, quoi, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Et puis bon, après, c'est le même jeu, hein, donc c'est super bourrin, il y a plein d'actions, en gros. C'est,
mais c'était sympa.
C'est tout ce que les fans de Dead Space rêvent pas forcément de voir. C'est-à-dire. Vraiment, dans la démo qui a duré, je sais pas, 10 minutes, on est resté quand même dans une seule pièce avec la caméra qui a tourné à peu près 7 fois
d'angle.
C'est
le début du jeu, en fait.
Oh là là. Et toujours, elle se retourne, puis il y a un monstre, puis elle se retourne, puis il y a un monstre.
Bon. Voilà. Alors glissons, parce qu'il nous reste quand même pas mal de jeux à couvrir aussi. Et on n'a pas encore parlé de Microsoft qui a fait quand même beaucoup d'annonces.
Mais alors attends, mais tu oublies le truc énorme de la conférence électronique.
Et Shadows of the Damned.
Oui, Shadows of the Damned.
Quand même, c'est le plus gros truc que j'avais.
Akira Yamaoka, Shinji Mikami.
Ah, c'est trois légendes vivantes.
Mais alors en fait, c'est marrant parce que je l'ai zappé parce qu'il y a beaucoup de jeux d'horreur. Il y en a eu aussi
chez Sega, etc. Shadows of the Damned.
Voilà, il paraît.
Ah ouais, mais c'était une puissance quand il disait ça, ouais, effectivement.
Il y a eu beaucoup de jeux d'horreur d'annoncer sur ce TGS, dont celui-ci, dont aussi Hunt, etc. On va en reparler sur Microsoft. Mais donc Shadows of the Damned, donc une vidéo et les trois créateurs qui ont fait effectivement le show sur la conférence Electronic Arts.
Enfin, surtout,
mais globalement, vous en avez pensé quoi de ce que vous avez vu là-bas?
Si je peux me permettre, Julo. Moi qui suis un fan du travail de Suda, un petit peu déçu de la tronche du jeu.
Moi
en réalité,
aussi,
je m'attendais à un festival visuel plus
brouillé de couleurs.
Voilà, c'est ça.
En fait, ça a l'air vraiment classique.
Et en fait,
quoi.
C'est assez classique. Ouais. C'est assez classique visuellement, quoi.
C'est même pas super beau.
Il va y avoir la touche Suda, c'est sûr. Hein, on a vu notamment dans le design des persos, dans les armes, peut-être quelques principes de gameplay. À un moment, on le voit de commander une bouteille dans une machine, etc. Il va y avoir des trucs débiles et tout. Mais visuellement, c'est pas la classe. claque à laquelle
ça
je m'attendais.
Ça ressemble plus à un jeu Mikami qu'à un jeu Souda finalement.
Un petit peu, ouais.
Mais on a un peu daté techniquement aussi. Hein.
Oui, c'est ça. Moi, ça m'a paru.
C'est pas hyper impressionnant.
Ans, bizarre.
Non, c'est pas hyper impressionnant. Donc, je suis assez déçu de la tronche qu'il avait. Après, vraiment, je suis hyper impatient évidemment de découvrir la suite, quoi. Mais
peut-être qu'ils veulent donner ce côté un petit peu désuet, ce coup.
Bah, disons que ça fait très aussi jeu pour le public occidental. Hein. C'est vraiment, c'est un shooter, c'est un shooter avec vue au-dessus de l'épaule, etc. Alors, il va y avoir du délire et tout, mais on sent vraiment que petit à petit, Souda, quand on regarde vraiment tous les jeux qu'il a fait du début jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même de plus en plus, enfin en tout cas de moins en moins débile et de plus en plus classique. Débile, ouais.
Mais il y a des raisons un peu à tout ça quand même.
Oui, bien sûr.
Et après, il y a plein d'infos insiders qu'on peut vous révéler.
Vas-y. Avec plaisir.
Des infos un peu chaudes en plus quand même.
Sexuelles, tu veux dire ?
Electronic Arts ne va plus payer grâce aux peurs. Là, il leur reste quelques mois avant d'arrêter de les payer.
Donc, via EA Partners en fait. Donc,
ouais, c'est ça. C'est, en gros, le jeu là, il l'annonce un peu vite et il faut vite le sortir aussi. Parce qu'apparemment, ça fait un peu de temps que c'est en
ce
développement.
Ce qui n'est pas bon signe non plus.
Et grâce aux peurs, il n'y a plus beaucoup d'argent dans les caisses. Et apparemment, c'est un petit peu tendu aussi de ce côté-là. En gros, les équipes de grâce aux peurs n'ont pas les épaules, la stature pour faire un méga blockbuster. Comme on le connaît, en gros, et puis on voit un peu les jeux qu'ils avaient sortis précédemment, c'était des jeux barrés, tout ça, machin, etc., mais jamais des prouesses technologiques. Ils ont pas, c'est pas un Platinum, quoi. Platinum, de leur côté, c'est des anciens de Capcom, ils sont super calibrés, ils ont déjà tous bossé ensemble, etc. Les autres, c'est pareil, mais c'est une plus petite équipe. Et en gros, si tous, au sortir de cette conférence, et vous, visiblement en France, vous avez pensé à la même chose, vous avez trouvé, ouais, ça fait un peu daté techniquement, c'est que eux, ils sont au taquet de ce qu'ils peuvent faire, là.
Ouais. Mais c'est, le truc aussi, c'est que ce projet, on en parle depuis pas mal de temps, on attendait vraiment de le voir, donc forcément, quand on crée l'attente, il y a une légère déception, surtout quand il y a des grands noms.
Mais c'est ce que j'allais dire, j'ai l'impression que ça a plus joué sur les grands noms
que
sur le titre en lui-même qui est assez classique.
C'est clair,
c'est vrai.
Donc
c'est
peut-être qu'effectivement, en marketing, encore une fois, ils vont tout miser dessus. Suivez-nous, on vous prenait des trucs intéressants parce que c'est nous. Mais,
mais apparemment, en termes de business pur, ça a pas l'air de se passer super, super bien.
Bon,
ça a l'air un peu tendu.
En tous les cas, c'est prévu sur 360 PS3 pour l'année prochaine. Donc, visiblement, on va en entendre parler très vite, puisqu'ils doivent
c'est quand même la nuit des morts vivants. Une nuit en enfer, moi, je trouve.
Oui, c'est vrai, il y a de ça. Ouais. Le héros,
c'est Samuel Garcia. Machin, des zombies.
Samuel Garcia, c'est ça. Hein.
Il va chercher sa meuf en enfer. Voilà. c'est le scénario.
Et du coup, puisque tu parlais de Grasshopper et de la situation de ce studio qui appartient à Suda 51, Suda 51 a donc fait partie des annonces de cette conférence Microsoft dont on va parler maintenant, avec un jeu Kinect aussi. Alors, on va aller très vite dessus parce que en fait, il n'a rien annoncé de particulier. Ça s'appelle Codename D, ce sera jouable sur Kinect. Il a juste dit il n'y aura pas de pistolet, pas même d'épée, mais ça sera un jeu d'action
qui tue la face.
Moi, je trouve que c'est du Suda.
Suda, moi, je crois qu'il est super fort. Bon, c'est un mec génial, il a plein d'idées, etc. Mais je crois que c'est surtout un mec qui sait trop bien aller chercher l'argent. Il a toujours fait, hein, à l'époque, on se rappelle avec Capcom, avec Killer 7, etc. Il faisait partie du deal avec Mikami et Nintendo pour financer
les fameux Capcom 7.
Voilà. Après, là, il part chercher de l'argent chez Electronic Arts. Là, maintenant, et c'est d'ailleurs ce qu'il a dit pendant la conférence, je suis super heureux de travailler avec Microsoft depuis le temps que je voulais travailler avec Microsoft. Putain, ça y est, boum, de l'argent. Je trouve super à ce niveau-là, et c'est pas du tout ironique, hein. Je trouve qu'il se démerde, il manie bien sa barque, même si visiblement là en ce moment...
C'est un peu plus tendu.
C'est un peu plus tendu. Mmh. Voilà.
Ça n'empêche pas de faire le show sur scène, il est toujours hyper marrant, il est super cool et tout.
Bon. Donc du côté d'Electronic Arts, du côté de Microsoft, pardon, il y a eu beaucoup de jeux Kinect, dont celui-ci, d'annoncer, souvent au travers juste d'un trailer et très peu de détails pour la plupart d'entre eux. Mais ce qui était quand même frappant, c'est de voir qu'il faut attendre les Japonais sur Kinect pour avoir des jeux
gamers
qui sont gamers. Effectivement, donc on parle. Alors après, c'est pas forcément des jeux qui seront exclusivement jouables à Kinect. Ils seront probablement, en tous les cas, je l'espère, par exemple pour Steel Battalion, qui est
et même pour Panzer Dragoon,
et même pour le nouveau. Alors, ça s'appelle pas Panzer Dragoon. Effectivement,
Project
ça
Draco.
Project Draco, voilà.
Il y a quand même marqué Only on Kinect, pas Only on 360.
Hein. Oui, ouais. Alors.
Moi j'ai très peur. Hein,
mais
si
c'est vrai que.
Me permettre.
Donc le créateur, qui est donc le créateur historique de Panzer Dragoon, qui s'appelle Yukio Futatsugi, a effectivement dit que c'était son grand truc et qu'il a, quand il avait vu Kinect, il avait trippé tout de suite et s'était imaginé de pouvoir voler
mort,
comme ça.
Ressuscité.
Sans manette, sans rien. Donc en tous les cas, des jeux gamers sur Kinect,
c'est possible.
C'est possible.
Ou pas, on verra quand ils sortiront.
C'est possible de les faire après que ça marche, c'est une autre idée. On en reparlera tout à l'heure avec Shadow.
Exactement.
Effectivement, il y a eu aussi d'annoncer Rise of Nightmares par Sega, un autre jeu d'horreur sur Kinect dont on ne sait absolument rien, oui. Si ce n'est le logo. Et Haunt, qui est, alors là, ça m'a super étonné. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. C'est Masaya Matsuhara qui développe ça.
Le père de Parappa. Ah,
voilà, le père de Parappa et de Vibribone que tu avais beaucoup aimé à l'époque. Je me souviens que c'était toi qui avais fait le test dans le Japan. Avec ce petit lapin en ligne blanche comme ça, etc. Donc des jeux musicaux, des jeux un peu plus enfantins. Et là,
il a rien à voir.
Voilà, il se lance dans un survival horror pour Kinect.
Moi j'aime bien Flower et Resident Evil et Silent Hill.
C'est vrai, mais bon. T'as raison, mais c'est excellente remarque.
Oh oui, bah oui.
Non, mais pour les créateurs, c'est vrai que c'est toujours étonnant.
Il a peut-être marre de faire du truc un peu mignon et vouloir explorer de nouveaux horizons.
Alors, en tous les cas, est-ce que ça restera musical ? Est-ce qu'il y aura des éléments là-dessus ? D'après les premiers éléments qu'il a dit, ce sera pas forcément uniquement horreur ou uniquement adulte. Ça risque d'être un petit peu spécial, etc. Mais bon, c'est facile à dire. Effectivement, en termes d'informations réelles, on n'a pas grand-chose. Hein. Donc voilà, pour les jeux Kinect, est-ce que je n'ai rien oublié? Je crois pas.
Ah bah, Steel Battalion,
il y a Kawashima.
Ah oui, oui, il y a
Kawashima's Body and Brain Exercise.
Alors attention, c'est pas seulement avec les bras et les mains, c'est aussi avec la tête. Et là, ça va tout changer. Bah, non, j'ironise un peu. Hein,
mais j'ai trouvé ça pas si mal en fait. On l'avait annoncé un peu avant le TGS.
Ouais. Il doit sortir à la fin de l'année au Japon, je crois.
Ouais. Hein. Et je me disais que ça va marcher comment, etc. Bah, finalement, comme là, il n'y a pas de précision ultime, ça marche bien déjà. Mmh. Donc finalement, c'est agréable.
Oui, forcément, il n'y a pas besoin.
En gros, il y a des exercices où ils nous donnent un horaire. 3h12, bim, et avec vos mains, vous devez faire la grande et la petite aiguille, etc., de plus en plus vite. D'autres fois, il y a des voitures de couleurs spécifiques. Et en fait, avec vos bras, vous faites des chemins comme des ponts-levis, etc., pour les faire arriver dans la bonne zone de couleur. Donc voilà, là, ça requiert surtout de la coordination visuelle et
gestuelle. Et motrice. Ouais.
Et vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas au centimètre près, etc. Donc ça fonctionne bien.
Ça,
donc
cuit,
c'est intelligemment bien fait pour Kinect. Donc c'est grand public et à la fois un peu gamer. Un peu gamer, je sais pas.
Oui. Je c'est avec les avatars. Grand public, c'est avec les avatars et
oui,
tout.
Oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est
enfin, en tous les cas, c'est des mini-jeux, c'est pas complètement débile comme certains autres trucs. Quoi.
Voilà, mais en gros, c'est une bonne manière de jouer à Kinect. Jouer ça, c'est intéressant. Et en gros, c'est moi, je trouve, l'un des jeux qui valide le mieux Kinect, enfin qui m'intéresserait le plus par rapport à tout ce qu'on a vu, sinon, au gesticulage débile.
Vous avez pu jouer à Child of Eden ?
Bah ça,
ouais. Et on va en parler un petit peu maintenant parce que c'est quand même un des gros jeux, on va dire, entre guillemets, pour l'instant, pour Kinect jusqu'à présent, qui ont été annoncés. On a tous vu cette démo de Mizuguchi sur scène avec ses gants blancs qui rejouait comme ça, etc. Voilà. Vous avez essayé.
Ouais. C'est pas ça. Vous êtes venu, vous avez vu.
Vous êtes et on a pleuré.
Ça se partit.
Moi, j'ai été extraordinairement déçu, mais pas par le jeu,
ouais, voilà.
Mais par
la maniabilité
Kinect. La maniabilité qui marche pas, point, c'est tout.
Par Kinect, en fait. Oui. Par Kinect, parce que le jeu, franchement, moi, j'ai été hyper séduit par les graphismes,
magnifique,
par les musiques, les graphismes vraiment mais surpuissantes. Le concept qui est cool, bon, qui est celui de Rez, en fait, hein, tout simplement, mais qui est vachement mieux intégré, plus... plus varié en fait que Rez, hein, qui était un peu toujours les mêmes décors, etc. Donc vraiment c'est bluffant, ça te fait voyager et tout, mais par contre tu tombes toujours du train de ce voyage, tu te casses la gueule parce que à chaque fois Kinect déjà il y a un problème de base, c'est qu'il y a une putain de latence entre ce que tu fais et le viseur qui va bouger à l'écran, parce qu'en gros ta main devient le viseur à l'écran. La reconnaissance qui déconne de temps en temps, etc. C'est vraiment sortir du trip et c'est bien dommage parce que quand t'as le son à fond sur les oreilles et ces images devant les yeux, c'est super. Donc du coup, on s'est dit, on y jouera sur PlayStation Move. Voilà.
Oui, parce
et c'est pas totalement confirmé.
Et c'est pas confirmé que ce soit
sur PlayStation
manette,
Move. Parce que moi, même avec une manette Xbox 360, bon, alors certes, au stick analogique, c'est pas peut-être machin, mais enfin, ça marchera bien au moins. Et puis, il y aura les vibrations quand on tirera. Il y aura une relation avec le jeu. Et comme le dit Julo, le jeu, franchement, alors même si c'est une expérience un peu barrée, machin, etc., c'est super efficace. On rentre dedans tout de suite. Et on aimerait kiffer. Et à la manette, je suis sûr que ce sera très bien. Mais avec Kinect, pour l'instant, alors même s'ils nous ont précisé, hein, on travaille dessus sur la reconnaissance
Ce qui est vrai. Hein,
croise les doigts vraiment. Ouais. Si ça marche bien, ça peut être chambé, vraiment. Mais, et on peut le dire sur tous les jeux Kinect. Enfin, pas tous, mais beaucoup. Mais pour l'instant, à quelques mois de la sortie quand même, ça sort en novembre. Hein. Ça marche pas, quoi. Stop.
Bon, bah,
attendons-nous à 500 millions de patchs.
Ça, on sera bien obligé de juger sur pièce très bientôt. Mmh. Espérons que ça marche mieux que ce que vous avez pu voir là-bas.
Espérons.
Steel Battalion, je reviens juste vite fait dessus pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une simulation de.
C'est un jeu de dingue.
De Mech Warrior, en fait, enfin de gros robots.
De Mecha, ouais.
Qui était sorti à l'époque sur Xbox. Ça a été produit par Atsushi Inaba, qui est aujourd'hui chez Platinum Games. Et donc, c'était un projet un peu foufou avec une énorme manette en trois parties.
Inaba fait ça.
Gigantesque.
C'était un peu surréaliste.
Et donc, là, ils peuvent le ressortir sans avoir à payer la grosse manette grâce à Kinect.
Je vois pas comment, mais.
Est-ce que c'est pas moins trippant aussi?
Ouais.
Ah bah c'est 10 fois moins trippant pour moi en tous les cas. J'ai vachement plus envie d'avoir une grosse manette.
À l'époque, t'as acheté l'accessoire et puis il y avait un jeu qui allait avec quoi.
Ouais, c'est ça.
C'était ça.
Il y en a eu deux parce qu'après ils en ont sorti un volet en ligne, mais bon, c'est vrai qu'elle a pas été beaucoup plus loin que ça. Mais en tous les cas, voilà, ça fait partie des projets qui ont été annoncés par Microsoft. Ils ont aussi révélé l'existence enfin d'un remake de Radiant Silvergun en HD.
Ah, ça c'est cool.
Voilà, effectivement, un des très très grands shoot 'em up.
C'est vachement bien.
Ah, je vais
Treasure.
Hein?
De Treasure,
et voilà, effectivement. Donc, ça, je sais qu'il y a des grands, grands amateurs et on l'attendait, il y avait des rumeurs, etc. Donc, en tout cas, ça a été confirmé, il sortira bien.
Qui défonce.
Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire en tous les cas du côté de Microsoft, qui s'est évidemment félicité du succès d'Halo Reach en parallèle, qui a fait plus de 200 millions de dollars le premier jour.
24 heures, ouais.
Rien de surprenant, finalement, on s'y attendait. Hein. Tu voulais rajouter quelque chose, Julien ?
Bah juste, c'est ce qu'on a exprimé avec Julo un peu dans la Gameblog TV lors du TGS, c'est que le stand Microsoft était vraiment un très beau stand, très ouvert, très bien équilibré. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment, contrairement à ce que vous aviez
Gamescom
vu, voilà,
3,
qui était Kinect centrique, ouais, etc. Là, il y avait vraiment une zone bien claire, identifiable, Kinect, avec une variété de jeux qu'on a cités, etc.
Mais qui était plus petite que le reste.
Mais qui était plus petite. Mmh. Et il y avait une zone avec tous les jeux, avec des jeux très barrés. Moi, j'avais retenu, j'arrive pas à retenir, Dream Seager Zero, qui est complètement débile avec ses petites soubrettes qu'on doit draguer, faire boire, mettre quand même des bananes dans la bouche en vue subjective.
On l'a pas vu ça.
Mais il y a des impressions qui vont arriver, etc.
Ah, j'ai hâte.
Poufy fait la tête, donc c'est qu'il a peut-être pas dû les voir encore, mais enfin, elles ont été tournées.
Ah, il faut que voir ça.
Et ça a l'air complètement débile, machin. Ça sort là cette semaine au Japon et. C'est pas prévu pour l'instant chez nous, hein, malheureusement.
Ah, c'est le cas de beaucoup des titres qu'on peut voir sur un TGS. Hein, effectivement, comme d'habitude, il y a beaucoup de trucs qui sont très, très, très japonais qu'on voit jamais.
Il y avait Final Fantasy XIII Xbox au Japon.
Exact. Ouais,
c'est quand même un événement.
Il y avait tout un tas de shoot 'em up très, très japonais.
Shoot 'em up.
Voilà, scrolling vertical.
Vertical.
Typiquement japonais. Ouais. Il y avait évidemment tous les gros jeux qui fonctionnent un petit peu aussi au Japon. Il y avait Halo, etc.
Il y avait Love Plus. Pas sur Xbox.
Non, non. Par contre, il y avait un jeu alors dans le même genre.
Il y avait Virtual On, un nouveau.
Il y a le nouveau Virtual On. Avec le Twin Stick.
Le Twin Stick.
Non mais autre jeu vraiment typiquement japonais avec des petites écolières etc qui était rigolo sur 360 et qui était sur le stand justement.
Des écolières.
Voilà, en fait c'est un shoot en vue subjective. Mais t'es dans une école et il y a que des petites étudiantes en jupette.
Shooter des écolières.
Et en fait ouais tu les shootes mais tu les shootes pas avec un flingue, tu les shootes avec des bonnes ondes, des hormones etc.
Peur,
et quand tu les touches elles font ah alors tu les touches sur les genoux elles font
c'est
ah puis après voilà ça s'appelle Galgun. Bon ça sortira pas chez nous je pense
dernièrement. C'est vrai que c'est débile. En fait, c'est l'histoire d'un écolier qui est poursuivi par des tonnes d'écolières qui tombent amoureuses de lui. Il doit les faire défaillir pour éviter de trahir la confiance de sa copine officielle. Voilà, donc
c'est complètement barré, mais voilà, c'était rigolo de regarder ça sur le stand 360 qui était donc un beau stand avec plein de trucs différents.
Et les Japonais ont
du monde.
Du
monde, c'est-à-dire que vraiment là, on l'a vu par rapport à l'année dernière, il y avait beaucoup plus de monde. Enfin, Microsoft, il continue à lâcher de l'argent,
il relance même fortement les investissements finalement.
Bon après, faut pas non plus, ils sont toujours ultra mineurs sur le marché japonais. Ces efforts, il faut les relever, mais voilà, encore aujourd'hui, la 360, même si elle fait beaucoup mieux que la première Xbox, franchement, c'est pas énorme.
Voilà. Mais
c'est intéressant de voir, effectivement,
il lâche
la tranche
du
stand, les gens qui viennent dessus, etc.
Ok,
ça avance bien.
On va bientôt conclure ce podcast avec un dernier tour finalement de tous ces autres jeux éditeurs tiers un petit peu parce qu'il y en avait évidemment beaucoup. Vous avez pu jouer à plein de choses. On va peut-être pas revenir sur tous les jeux qui ont été présentés.
Mais
de toute façon, nos impressions sont en ligne sur Gameblog.
Il MGS Rising.
Mais il y en a quand même quelques-uns sur lesquels il faut qu'on revienne.
Il y a notre coup de cœur.
Il y a le coup de cœur effectivement, c'est Retni no Kuni version PS3. Il sort aussi sur DS, hein, mais vous avez joué à la version PS3.
Les deux seront.
Il y a eu un trailer. T'as joué aussi à la version DS sur place?
Ouais.
On commence avec la version DS alors?
La DS, l'avantage c'est qu'elle a le grimoire.
Ah oui, c'est vrai.
Alors j'ai pu l'avoir dans les mains et ça défonce grave. C'est-à-dire que le grimoire, déjà, il est super gros. Enfin, il y a vraiment.
Donc
y a,
avec le jeu, en fait, t'as un bouquin en
un,
plus.
Un bouquin physiquement, que... voilà. Dans la boîte, etc. Avec moult pages, avec des dessins, des histoires, alors tout en japonais. Et donc, apparemment, quand tu joues,
on te renvoie,
on
au
te
livre.
Renvoie vraiment au livre, à certaines pages, à des énigmes visuelles ou narratives. Et tu dois faire, par exemple, des trucs à la Harry Potter, genre des mouvements de bras.
Que le grimoire t'apprend à faire.
T'apprends et que du coup, tu fais avec ton stylet sur la DS.
Un bon moyen de lutter contre le piratage.
Bah, grave.
Mais ça, c'était les premiers jeux Atari ST, c'était déjà ça. Hein. Ouais.
Bah, tous les jeux d'aventure LucasArts, il y avait dans le manuel les trucs.
Mais je trouve ça génial. C'est une espèce de relation entre
génial,
le réel et le virtuel et tout.
Parce que t'es vraiment dedans, quoi.
Ouais, ouais. Moi, j'ai trouvé ça fantastique. Donc, on rappelle quand même pour ceux qui connaisseraient pas trop Ni no Kuni, c'est quand même fait par Level 5
voilà.
Et les studios Ghibli, quand même.
Voilà, Ghibli, donc Miyazaki, etc.
Ponyo et compagnie.
C'est pas des manchots.
Et franchement, la version PS3 donc, qui a été dévoilée là au TGS, elle nous a, avec Julo, et tout le monde, j'ai un peu l'impression.
Ah, ça tue, scotché. Nous, on a vu le trailer et les screeners qu'on a déjà mis en ligne, que vous nous avez envoyé.
C'est les phases de jeu qui sont hallucinantes, quoi. C'est l'animation du personnage dans les phases où tu le diriges vraiment qui sont
donc il y a deux jamais vu il y a deux aspects il y a l'aspect un peu exploration effectivement de l'univers
mais c'est exactement ce que je disais si Zelda sortait sur PS3 ouais. Ça serait ça
putain
c'est
ouais.
Ce
que Trace disait
ça serait juste
ouais.
Fantastique
sauf que là il y a des combats RPG style
oui, ça c'est la deuxième
pas trop,
phase
pas trop quand même
on peut l'air extraordinaire apparemment
un petit peu mais enfin moi c'est pas le genre de truc qui me rebuterait alors que l'RPG c'est pas trop mon truc mais là ils ont l'air assez légers quand même
et puis il y a une carte
c'est génial.
Sans déconner, aux anciens Final Fantasy, etc. Ouais, en gros, hop, vous arrivez, puis là vous êtes dans une espèce de grande prairie, des montagnes
c'est génial,
au fond,
ça, c'est génial.
Le château loin, avec des nuages qui passent, etc.
Mais c'est bon, du Zelda, quoi. Vraiment.
C'est super.
Mais alors, il y a quand même une découpe en zone, j'imagine, de cet univers. C'est-à-dire que même si t'as une carte, tu vas pas te balader sur toute la carte comme ça.
Non, quand tu rentres dans une ville ou dans un endroit.
Ouais, la Final Fantasy d'avant.
Ouais, c'est ça, ça sera fini.
Comme les anciens RPG.
Et puis il y a des petites animations, genre la cape qui avec le vent qui s'engouffre dedans et qui vole.
Au global, il y a tout ce rendu, donc évidemment, cel shading pour donner cette impression d'animation.
C'est animé vraiment, quoi.
Mais qui est nanti d'une espèce de subtilité dans l'approche, etc. Il n'y a pas de gros traits noirs flagrants, c'est fin.
C'est pas jeu, quoi.
Voilà.
C'est vraiment
et Julo avait raison. Si la caméra était un petit peu moins caméra jeu vidéo à bien vous suivre derrière, on aurait vraiment l'impression de regarder un dessin animé. Mm. En sachant que aussi il y aura des heures de films, de dessins animés faits par Studio Ghibli quand même directement.
FMV.
Ça a l'air de tuer tellement. Non mais vraiment, moi je.
Ouais,
il faut qu'il.
Ouais.
Alors ça sort. La version DS sort à Noël là au Japon.
Ouais.
Il y a pas de date pour nous pour l'instant.
Ça,
et la version PS3 en 2011 sans plus de précision. Espérons vraiment qu'ils le sortent parce que. Vraiment, je crois que c'est une belle aventure, une belle invitation au voyage.
Je n'imagine pas ne pas sortir ça, quoi. C'est pas possible.
Espérons.
On croise les doigts en tous les cas. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas croisé les
doigts
dans
les
doigts. Podcast.
Exactement.
Donc, croisons les doigts pour Ni no Kuni, qui était un des jeux de ce salon pour nous, en tous les cas. Et le coup de cœur de Julien. Autre gros jeu visuellement impressionnant en tous les cas par son approche, c'est El Shaddai.
Alors ouais, moi c'est mon coup de cœur à moi, El Shaddai. Je le suivais pas mal avec les premiers trailers, etc. J'étais très intrigué par la tronche qu'il avait, par
l'univers
donc biblique tiré du livre d'Enoch, un livre apocryphe de la Bible.
Et Enoch, le rappeur ?
Ouais, c'est ça, le prince.
Hein ?
D'accord.
Et donc, et c'est marrant parce que c'est devenu un peu la blague du salon pour pas mal de gens autour de nous, dans la presse française notamment. Et moi, j'ai pas trop compris parce que visuellement, j'ai vraiment trouvé ça magnifique.
Moi,
j'étais impatient de pouvoir y jouer, etc. Alors certes, c'était une petite démo, et je dois dire qu'il y avait donc les scènes de beat 'em all, hein, dans lesquelles on va se battre dans des environnements en 3D contre des adversaires qui apparaissent comme ça, etc. Progresser. Et d'autres phases, rien à voir, où vraiment c'est un scrolling, tu vois de côté, et c'est un scrolling horizontal.
Donc c'est plus plateforme dans ces phases-là.
Plus platforming et tout ça. Et effectivement, ces scènes-là paraissaient un peu archaïques en termes de gameplay, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire, on sautait sur des plateformes, etc. Waouh, mais c'était magnifique. C'est à ce niveau où t'es en ombre chinoise comme ça, avec
le vitrail
dans le
derrière,
décor, un vitrail gigantesque que tu découvres comme ça en grimpant de plateforme en plateforme, qui est superbe. Des musiques un peu planantes, religieuses, etc. En fond. Et puis une autre scène comme ça, vue de côté également, mais qui ressemblait plus cette fois à une estampe japonaise avec des grandes vagues comme ça sur lesquelles tu devais monter, courir, etc. Le soleil qui apparaît un peu en lens flare comme ça, puis qui se transforme en visage de Dieu qui souffle comme ça et tout. Enfin, je sais pas, c'est vraiment visuellement, il y a un style incroyable. Alors, il y a un mec qui a bossé sur le design d'Okami qui est au cœur de ce projet-là.
Oui. Et le gameplay de Devil May Cry.
Voilà.
Oui. Et c'est ce qu'il fait.
Tout à fait. Et franchement, c'était certes, alors
au niveau gameplay, je le répète, peut-être un peu simplé, etc. Mais au niveau animation, dans les phases en 3D, j'ai trouvé ça superbe. Au niveau design, superbe.
Mais ça vraiment, donne envie, en tous les cas. Vraiment,
ça donne envie d'y jouer, d'en
et
voir
puis
plus.
Cette histoire, parce qu'il y a aussi, évidemment, des personnages bibliques. On a vu que le fameux Lucifer était se pointe dans cette scène sous la pluie avec son parapluie en costard.
C'est pas en costard, c'est plutôt en fringue Jones. D'ailleurs, ils ont un partenariat avec une marque
moderne,
de jeans.
En fait,
voilà,
ça,
Donc, il y a effectivement une faille spatio-temporelle un peu dans le truc, mais bon, justement, ça participe au fait que ça soit intriguant et que j'ai envie personnellement de le découvrir. Et je crois que Julien, toi aussi, ça t'a tapé dans l'œil.
Quand on prêche l'ouverture du jeu vidéo vers des choses un petit peu différentes,
de l'originalité, quoi.
De la fraîcheur, une approche artistique un petit peu plus intéressante, etc.
Comment rejeter
oui, c'est ça,
une
voilà.
telle initiative
comment
la rejeter
ce sera peut-être pas très bien, peut-être
ce sera
peut-être
nul.
Test, on va dire ah, on est déçu machin, ok,
mais en tous les cas visuellement c'est captivant,
bah c'est ça,
voilà. Effectivement.
Le silence, ils avaient un gros stand avec que ça et de la musique, enfin on n'a pas très bien compris.
Mais moi aussi, hein, de ce que j'en ai vu, ça m'a séduit en tous les cas. Visuellement, j'ai envie d'essayer en tous les cas.
Bah, vous nous direz si on est seul au monde
ou
si
vous avez
peut-être
pas aimé,
dans les forums de Gameblog.
Moi, mais bon,
vous avez quelques screeners pour vous faire une idée.
Exactement.
D'ailleurs,
voilà, on l'aura mis à nouveau hein, parce qu'on allait le refilmer et tout pour vous montrer un petit peu.
Deux screeners,
Et puis les trailers, évidemment. Trailer du TGS et trailer auparavant. Autre jeu, alors là, on n'a pas vu grand-chose. Il y a eu une présentation, on n'en a pas trop parlé tout à l'heure du côté de chez Sony, si je dis pas de bêtises, de Microsoft. C'était MGS Rising. Qui a refait
Microsoft,
en fait la démo
Microsoft,
qui a refait sa démonstration
avec les pastèques
pu développer
alors technologiquement moi j'étais super impressionné par le fait qu'on puisse vraiment trancher n'importe où sauf la table.
Ouais, c'est ce que tout le monde disait, mais c'est bizarre, mais on arrive à couper tout, mais pas la table.
Il arrête le geste, non,
mais pourquoi?
Oui, non, normalement oui, mais
je
bon
sais pas.
C'est vrai que ça fait peut-être un peu bizarre. Enfin, moi, j'aurais bien fini la démo sur bon, et puis la table, on va la couper aussi. Allez, on va vous faire plaisir, on va couper la table. Donc, c'est intéressant, mais finalement, on n'a rien vu d'autre sur le jeu. Ils ont juste
Metal
un petit
Gear
peu
Solid Rising,
voilà, parlé de la présence d'autres personnages issus de la saga, évidemment.
Il y en aura un petit,
surprise,
un nombre certain, compris entre 1 et
50.
3,
quoi. Oh, peut-être même plus.
Bah, apparemment, pas trop. Non. Franchement, on sait pas grand chose pour l'instant sur le jeu.
Mais justement, c'eût été une bonne chose quand même, parce que le stand Konami n'était pas extraordinairement blindé de nouveautés, etc. D'avoir ce jeu phare. C'est dommage qu'on.
C'est ce qu'on a trouvé, que chez Konami, ça manquait d'un jeu phare. Alors, il y avait Love Plus pour l'affluance. Parce que
alors, parlons-en justement. De
comment il y avait
Love Plus, c'est
quand même
quoi.
Tout un truc. Hein,
ah, c'est un phénomène.
Ça empêche les développeurs de boucler les jeux. C'est tout un truc.
Juste pour conclure sur Kojima Productions avec Rising, etc. Parce qu'il y avait aussi de l'autre côté, il y avait Castlevania qui, mine de rien, fait venir pas mal de monde aussi. Bon,
enfin,
on a déjà parlé
1000
fois, etc. Voilà. Mais juste pour l'anecdote, parce qu'il faut savoir qu'au Japon, donc, toutes les voix seront faites par le cast de Metal Gear, donc le mec qui fait Snake,
qui sont des gens populaires, des doubleurs
donc,
populaires.
Ils font le cast et Kojima fera une voix Julo.
Ouais, tout à fait, c'est un petit personnage dans Castlevania, une espèce de petit lutin super moche qui a une voix horrible et qui vous pique votre matos et qu'il faut retrouver après dans le niveau.
Tiens, ça me fait penser à Golden Axe.
Voilà, et donc tous les personnages super classe, si vous voyez, t'avais une présentation dans le rôle de machin, et dans le rôle de
Hideo
Kojima. Voilà, c'est Hideo Kojima qui va faire la voix de ce petit personnage hyper énervant dans Castlevania. Voilà.
Ok.
C'était l'info principale à retenir.
L'information de ce TGS, évidemment.
Et donc Love Plus, là-bas, c'est donc un véritable phénomène. Donc le jeu, c'est un jeu de drague virtuel. Hein. Mm-hmm. Vous avez votre petite copine, etc. Y a une version, c'est un peu comme Nintendogs. Hein. Y a une version par nana.
Choisis ta nana.
Et donc là-bas, ils avaient mis des petites vignettes.
Le parallèle Nintendogs.
Et donc les joueurs, qui sont pas les joueurs habituels, hein, ils sont un peu plus âgés, etc. Transpirants et tout, avec leur téléphone en train de les photographier.
Quand
à ça,
gros.
Et qui mettaient leurs mots d'amour.
Ce matin.
Enfin bon,
il y en a bien qui se marient avec des DS. Hein.
On rappelle qu'ils vont au cinéma en achetant deux places.
Ils dorment avec la DS ouverte à côté d'eux. Ils se marient avec la femme qui est à l'intérieur de leur DS.
C'est un peu particulier.
C'est
un gilir.
Quand t'as la Love Machine.
Voilà. D'autres jeux qu'on a pu voir un peu intrigants, et puisqu'on est en train de parler de relations avec des femmes virtuelles, Catherine.
Ah oui.
Ça a l'air bizarre.
C'est
présenté comme un jeu
génial.
Érotico-horreur.
Ça a l'air génial.
Ouais.
Ah, franchement, ça m'attire grave. Alors, et pas uniquement pour les formes de Catherine, qui est quand même genre ultra sexy, super bonasse et machin.
Blonde avec ses grands, enfin à la japonaise.
Ouais, puis avec des bons gros seins.
Quel prénom étrange en tout cas.
Et donc, en fait, le mec qu'on incarne, Il ressemble à une espèce de personnage un peu à la comment il s'appelle ce dessin animé là, Cowboy Bebop,
ouais.
Avec les cheveux un peu éclatés comme ça, machin.
Hirsute.
Et donc il part dans des rêves où il voit Catherine. Il est pourchassé par des mecs en costard avec des têtes de bouquetin.
Catherine.
Enfin, c'est super space. Le gameplay, j'arrive pas encore très bien à l'identifier. Ouais. C'est pas de
on
l'aventure,
pas en fait,
tu
t'as
un peu de plateforme bizarre, etc. Il y a beaucoup de cinématiques qui ont l'air d'être un peu interactives, mais alors ça a l'air vraiment d'avoir une patte, un style, une ambiance. Ça a l'air
beau en tout cas.
Ouais, et puis c'est super beau.
Foutu, hein.
Ouais. Ouais. Même dans les phases de jeu, c'est plutôt bien foutu, etc. C'est pour moi le jeu barré du Tokyo Game Show.
C'est vrai que ça a l'air.
Clairement. Mais on aurait rêvé y jouer et il n'était pas jouable.
Il n'était pas jouable. Alors, ce à quoi vous avez joué d'autres aussi, par contre, chez Square Enix, c'est Gunloco en multi. Alors,
on peut régler assez vite.
Voilà, vas-y.
Ah, c'est
une planète prison. Tous les prisonniers ont accès aux armements, etc. Voilà. Sont livrés à eux-mêmes. C'est ultra violent. C'est très décadent.
Alors, il y a une campagne solo de prévue, mais ils ont montré que le multi.
On
n'a
rien vu. Et le multi, il est pas passionnant quand même, vraiment.
Ça a l'air mou, hein.
Ah non, je l'ai pas trouvé, moi. Je trouvais ça mou, moi. Oh, ça va quand même assez vite et tout, mais c'est un peu chiant. Alors, on n'a pas dit grand chose parce que pour l'instant, ils nous ont dit ouais, mais rien n'est implémenté dans cette version, etc. Donc, on va pas se permettre d'avoir un avis définitif. Mais ce à quoi on a joué,
c'est
pas fou, quoi.
Ok. Dissidia aussi, toujours chez Square Enix, Duodécime 012, donc la suite du jeu de baston PSP avec tous les personnages de Square.
Bah, des petits raffinements au niveau du gameplay, voilà. Mais ce que les fans apprécieront le plus, c'est l'arrivée de deux nouveaux personnages. C'est Kane de Final Fantasy IV,
ouais.
Et Lightning de Final Fantasy XIII, et peut-être probablement d'un nouveau personnage, Tifa.
Qui va être annoncé en janvier.
Voilà,
Queen de Tifa.
Puisque à la toute fin du trailer qu'on a pu découvrir en backstage, machin, Square Enix Theater, bah, elle parlait à Sephiroth.
Donc, waouh,
peut-être qu'elle arrivera.
D'accord.
Wow.
Parlons de Final Fantasy Versus XIII vite fait quand même, parce qu'il y a eu 26 secondes qu'on a essayé de vous passer. Alors, effectivement, Square n'ayant pas prévu et n'aimant pas trop diffuser des images de jeux pas finis.
Totalement interdit de les diffuser.
Voilà, c'était interdit. Les images ont néanmoins leaké sur YouTube comme d'habitude, donc on les a passées. J'imagine qu'à l'heure où vous écoutez ce podcast, elles ne sont plus visibles.
Mais elles sont sur d'autres sites de fans qui les changent d'adresse. Ouais,
parallèle là.
Il y a possibilité de le voir.
Voilà, en cherchant un petit peu, il y aura toujours possibilité. Mais donc il y avait 26 secondes finalement de gameplay. En fait, c'était des images de gameplay. Ça a l'air beaucoup plus ouvert, Julien, que FF13.
Ah bah oui, c'est une grande carte.
Il y a un vrai progrès.
Oui, bah techniquement par rapport à ce qu'a vu Julo l'année dernière, apparemment où c'était l'effroi le plus absolu. Là, on peut pas le dire. On pourra pas dire non plus que ça a l'air super génial parce que 26 secondes, c'est quand même un peu court pour un jeu qui est en développement depuis plus de 5 ans.
Enfin, qui a été frisé pour finir FF13 quand même.
Oui. Bon. Mais globalement, ça a l'air d'être le retour d'une grande carte, d'un grand lieu où on va se balader avec des textures qui sont bien plus raffinées de ce qu'on a vu par rapport à Grand Pulse de FF13, oui. L'endroit où c'était très ouvert. Donc ça laisse assez rêveur. Il y a un combat contre un behemoth à la fin dans la ville, dans une ville très moderne où à chaque impact,
ça fait très
etc.
TPS
en
fait,
ouais,
presque
ouais.
Vraiment très
chaque impact, on voit les coupures même sur la peau du monstre et tout, donc ça a l'air très péchu et tout. Ça a l'air d'avoir un petit style aussi. Enfin, ça laisse présager quelque chose d'intéressant et on en saura plus effectivement en janvier.
En janvier prochain, donc à la conférence de presse de Square dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a vu aussi sur ce TGS cette fois-ci ?
Kingdom Hearts Recoded.
Voilà, effectivement, donc qui est l'adaptation finalement DS d'un jeu qui était fait
sorti sur téléphone portable.
Voilà, pour les téléphones portables au Japon.
Donc à nouveau Kingdom Hearts, on va dire traditionnel avec ses phases d'exploration où on va taper sur les ennemis avec la clé. Et puis des scènes un peu originales, la démo en tout cas nous a montré un shoot 'em up dans lequel on dirigeait le personnage de dos, il fallait donc shooter des séries d'ennemis, récupérer des items, des upgrades, etc. Il y avait des boss à la fin de chacun de ces niveaux, etc. Donc ça c'était un nouveau type de truc assez original pour un Kingdom Hearts. Pour le reste, c'est très bien réalisé pour de la DS, avec quelques scènes cinématiques, on en avait une dans la démo aussi super bien exécutée. Pour de la DS encore une fois.
Ouais.
Donc c'est pas du niveau du dernier Kingdom Hearts sur PSP visuellement, mais voilà, les fans s'en satisferont très bien.
Voilà, Kingdom Hearts Recoded.
Coded.
Ouais. Voilà, donc l'adaptation DS de Kingdom Hearts Coded. Et puis tu as joué aussi du côté de chez Sega, Valkyria Chronicles 3, qui a été donc. Alors on savait pas trop si ça allait sortir sur PS3 ou PSP, puisque le premier volet était sur PS3, le second sur PSP. Finalement, ce sera sur PSP encore une fois.
Voilà, la première info c'est ça. Je suis un petit peu déçu pour rien vous cacher.
accroché parce que l'épisode de PSP était plutôt pas mal, même s'il était très long à commencer, que ça m'avait un peu saoulé. Ouais. Mais visuellement, c'était tellement beau sur PS3 que j'avais très envie de voir ce nouvel épisode raffiné en termes de gameplay avec la réalisation d'antan sur PS3 avec le premier épisode. Et ben non, c'est pas le cas. Cela dit, ça ressemble beaucoup au fait à Valkyria Chronicles 2, mais avec un progrès graphique, justement. On se rapproche plus du style PS3, on en est encore loin dans l'exécution, mais on a plus ce côté pastel crayonné qu'il y avait sur la version PS3, donc ça c'est agréable. Après, au niveau gameplay, il y aura tout un tas de raffinements, on n'en a pas vu beaucoup, c'était une très courte démo dans laquelle on pouvait diriger encore une fois un tank qui prenne maintenant qu'une seule étoile pour se déplacer. Voilà,
les gens seront
heureux de le savoir, mais c'est important au niveau stratégique.
On l'a pas vraiment rappelé, mais effectivement,
c'est un jeu de stratégie. Mais voilà, on va avoir cette phase de carte dans laquelle on va choisir son personnage, etc. Après, on va passer dans une vue action en fait sur le champ de bataille directement pour déplacer son personnage qui va vider la jauge de déplacement jusqu'à un point stratégique donné. Il faut évidemment rester après à la fin du tour derrière un abri, etc. Et dans lequel on va ensuite shooter, etc. Enfin, le gameplay a pas beaucoup changé en réalité. Il y a la réalisation qui est un peu progressé, et puis ces phases durant les combats cette fois où il va y avoir plus de discussions avec les différents personnages, c'est très important l'attachement que le joueur va avoir avec les personnages, il y en a beaucoup et ça fait un peu le sel du scénar dans Valkyria Chronicles. Ils vont apparaître pendant les phases donc de combat sur les côtés de l'écran avec des dessins, des dialogues, etc. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Ça va dynamiser un petit peu, ça va être un peu plus joli, et puis sinon c'est la formule Valkyria Chronicles quoi, qui est très sympa.
Ok.
Un peu plus dark, un peu plus sérieux aussi. Ça c'est bien parce que dans le Valkyria Chronicles 2, le côté un peu il y a la guerre à l'extérieur, mais nous on se préoccupe de ce qui se passe dans les relations amoureuses entre les gens, à la cantoche, qu'est-ce qu'il y a à manger, etc. C'est un peu spécial, c'est ce qui m'a un peu fait chier dans Valkyria Chronicles 2. Ouais. Là cette fois ça a l'air un peu plus dark à nouveau comme dans le premier. Voilà.
Un peu plus mature.
Okay. Un peu.
D'ailleurs, tu parles de dark, mais c'est quoi Project Dark?
Alors Project Dark, c'est a priori, tu fais très bien vu Traz. On l'a zappé parmi tous ces jeux, mais c'était une des annonces. Effectivement, ça semble être en fait Demon's Souls 2, donc annoncé par From Software. Ils n'ont pas validé que c'était Demon's Souls 2, mais encore une fois, on ne sait pas grand chose dessus. Il y a eu quelques premiers visuels de dévoilés et le projet. Il y a de fortes chances pour que ça soit l'héritier, tous les cas, de cette licence qui est très appréciée sur PS3.
Il y a SOS Final Escape 4.
Je voulais boucler avec ça en fait.
Il y a Tekken Tag Tournament 2 alors,
annoncé en arcade aussi, toujours pas validé. Après, il y a de fortes chances pour qu'il sorte sur 360 et PS3, puisque ça n'est plus une exclusivité Sony depuis pas mal de temps maintenant, depuis les deux derniers épisodes en fait. En termes d'annonce autre. Globalement, je crois qu'on a fait un peu le tour. Itagaki, donc le créateur de Ninja Gaiden, et a son prochain titre qui s'appelle Devil's Third ne sortira pas l'année prochaine. Il l'a signalé que c'était donc pas possible. Il commençait à peine la production. Donc on entendra parler beaucoup plus tard. Et puis voilà, en gros, un petit peu sur ce TGS au terme d'annonce, il n'y avait pas non plus 30 millions d'autres trucs.
Ils ont même pas montré Virtua Tennis 4. Je suis dégoûté. Ah, ils l'ont montré.
Bien sûr que c'est.
Et il était jouable.
Bah oui. Au PlayStation Move.
Comme à la Gamescom, mais c'était la même démo, non?
J'ai même pas fait
la même, moi j'y étais pas, donc je peux pas vous
dire. J'ai pas joué perso sur le salon.
Mais il était.
D'accord, j'ai loupé alors. D'accord.
Et jouable avec les lunettes 3D et le PlayStation Move.
Donc ça ressemble à ça.
On parle vite fait de SOS Final Escape 4. Julo, tu veux en parler?
Et bah alors en fait c'était sous forme de vidéo. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils avaient promis pendant le salon une démo jouable qui n'est jamais arrivée en fait. Donc on a vu cette vidéo. Quand elle est à l'intérieur du stand, tu pouvais la voir en 3D, mais c'était la même. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà qu'on est content que cette série revienne sur le devant de la scène. On espère qu'il y aura une sortie chez nous. Le concept, il est simple. On incarne un mec qui vient chercher du taf à Tokyo.
Au mois de juillet.
Voilà, et puis évidemment The Big One, celui dont tous les Japonais ont peur, le grand tremblement de terre qui détruira Tokyo, arrive, et donc il est suivi par plein de répliques, et le principe du jeu, ça va être de survivre là-dedans, d'aider les autres, de récupérer des items qui permettent de survivre, etc. Il y a une ambiance mélancolique avec une superbe musique dans le trailer d'ailleurs. Et puis tu vois des gens qui sont inanimés dans les bus, etc. Il y a des répliques à l'intérieur, quand t'es à l'intérieur même d'un immeuble, il peut y avoir des répliques et tout s'écroule, etc. C'est plus plutôt joli, moi je trouve. C'est assez bien foutu.
Il y a une quarantaine de persos apparemment que tu vas rencontrer.
Ouais, avec lesquels tu vas pouvoir interagir, etc. Donc, je sais pas, moi, c'est certes le quatrième épisode, mais je trouve que voilà, c'est toujours un petit vent frais, c'est original comme concept.
Et il y a une petite dimension un peu bizarre.
Oui, avec des fringues.
Oui, déjà les fringues, t'as une centaine de fringues à récupérer, alors je vois pas trop l'intérêt.
Ouais, bref. C'est commercial.
Et il y a le côté, la toilette. Côté propreté du personnage. Ouais. En fait, quand t'es trop crade, il va falloir que tu trouves des endroits, enfin des toilettes ou des latrines, j'en sais rien.
Tu penses quand t'es en train de survivre.
Et voilà, et tu vas devoir te laver.
Je dois rester propre.
Tu vas devoir te laver. Non, mais ça, c'est très typique japonais, j'ai l'impression. C'est rester propre dans toutes les conditions.
Si tu dois sauver des gens qui sont genre blessés, etc., vaut mieux avoir les.
Oui, c'est ça, c'est ce que j'avais dit. Peut-être que si c'est le côté hygiène, si t'es crade, hygiène, voilà. Donc tu périras peut-être.
Dans tous les cas, c'est assez bien foutu. Et voilà.
Okay. Et puis après le 3 avec Cédric, nous avons senti notre deuxième secousse tellurique, puisque nous sommes à peu près persuadés d'avoir eu senti
ça
un nouveau
réveillé,
tremblement de terre. Réveillé, non, c'est pas le même moment.
C'est dur
moment.
De le réveiller.
Il faut absolument que vous voyez ça, effectivement. La façon de dormir de Cédric, c'est quand même un grand
moment
sur
le blog. J'ai rien.
Voilà. Donc effectivement, voilà un petit peu.
Donc un petit TGS, un gros TGS, moyen.
Bah finalement un bon TGS, hein, je crois quand même.
En tout cas, on n'a pas parlé des jeux occidentaux qui étaient néanmoins présents. Hein. Ouais. Ubisoft était aussi sur place, avec Child of Eden, mais aussi avec Michael Jackson Experience, qui était jouable pas sur le stand, mais on a pu s'y essayer un petit peu rapidement et tout sur Wii et tout, c'était sympa.
Exact.
On reviendra dessus un peu plus tard, parce que c'est pas vraiment le TGS à proprement parler. Il y avait Hawks 2, du côté de Square Enix, il y avait quand même des Sex qui était présenté, il y avait les Call of Duty parce que c'est eux qui les éditent, du côté chez Sega il y a Mafia 2, Formula 1 2010, enfin moi j'ai trouvé vraiment que c'était le premier TGS de l'explosion de l'internationalisation, c'était pas avant il n'y en avait pas, après il y en a eu quelques petites bornes, là c'était des énormes stands entiers dédiés sur les stands de constructeurs.
C'est l'offensive occidentale.
Ah clairement. Et
qu'il y a une mutation aussi au Japon par rapport à ça aussi, quoi. C'est qu'ils n'ont peut-être pas le choix non plus de faire venir justement tous ces jeux occidentaux pour redynamiser
le marché. Et Square Enix maintenant c'est leur jeu aussi, donc
oui, c'est vrai.
Et c'est d'ailleurs ce qu'on a appris pareil un petit peu en interne, c'est a priori après Capcom le prochain qui pourrait bénéficier énormément de l'internationalisation c'est Square Enix, qui avec leur achat d'Eidos est en train d'apprendre apparemment en interne extraordinairement vite sur les méthodes de production d'Eidos pour sortir peut-être des Final Fantasy tous les ans avec des valeurs de production identiques à ce qu'ils font aujourd'hui. Sauf qu'ils le font en 5 ans.
Parce qu'ils seront mieux organisés dans leur studio.
Il y a plus de monde, mais effectivement, on sent qu'il y a cette mutation qui est en train de s'opérer. Et c'est finalement tout ce qu'on attend du jeu japonais qui rayonnait encore il y a quelques générations, qu'ils apprennent et qu'ils se mettent au niveau parce que. En termes de créativité, ils ont toujours pas. Enfin, ils ont toujours tout ce qu'il faut.
Ils n'ont pas à rougir.
Voilà, donc l'avenir du jeu vidéo japonais finalement se présente sous de bons auspices, apparemment.
En termes de créativité.
Meilleurs auspices, moi je dis.
Voilà, les Japonais commencent à vraiment accepter le fait qu'il faut qu'ils apprennent certaines choses et l'anglais. Alors, ça, c'est pas gagné encore, hein, parce que malheureusement.
Non, mais c'est vrai. Pourquoi on verrait pas effectivement éclore plein de petits développeurs japonais indépendants?
Mais ils sont tous en train de fermer. Ils sont tous en train de fermer. Les petits développeurs japonais.
Petits développeurs, c'est des mecs de 5 personnes qui vont faire des jeux à la créativité qu'on n'a jamais vu.
Ça coûte cher quand même.
C'est certes. Mais enfin, bon, avec les plateformes de téléchargement, pourquoi pas quoi.
Donc on verra ça dans les années à venir. En tous les cas, donc c'est un TGS assez bon cru, plutôt dynamique. Il y avait pas mal de petites nouvelles choses, des nouveaux jeux, des nouvelles choses à voir sur place et à jouer. On continue à vous parler de toute cette actualité sur Gameloc.fr et on vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine pour un nouveau podcast qui sera dédié à Gunpei Yokoi,
ce génie mental,
avec Florent Gorge de Pixel Love. Effectivement, sur un grand, grand monsieur du jeu vidéo, ça va être très, très intéressant, vous verrez. Donc rendez-vous la semaine prochaine, mercredi, en fin de matinée, comme d'habitude, sur Gameloc.fr. Et en attendant, jouez bien.
Arigato.
Ciao.
Salut.
Salut.
C'est beaucoup.